18h-20h, Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour ce 18-20 un peu particulier, entièrement consacré à ce qu'on appelle l'acte 4 des Gilets jaunes, ces manifestations qui se sont déroulées partout en France et à Paris, sans les violences terribles qu'on avait pu déplorer les semaines dernières, mais la soirée n'est pas terminée. Nous ferons le point évidemment dans nos journaux avec nos envoyés spéciaux un peu partout. Et à 18h10, un document, des témoignages exclusifs. On se demandait où était Emmanuel Macron cette semaine. Deux maires de communes proches de Paris l'ont rencontré de manière informelle pendant 3 heures, sans filtre, pour lui raconter l'état réel du pays. Pourquoi cette crise? Pourquoi cette défiance? Ils seront tous les deux dans ce studio pour nous raconter cet entretien exceptionnel. Nous recevrons également le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi? Car ce parti regrette l'abandon de la taxe sur l'essence et le diesel, cette fameuse taxe qui a mis le feu aux poudres. Nous serons également avec un personnage, le champion d'Europe des plus de 35 ans de taekwondo. Il est français, il est ingénieur et il est monté sur le podium avec un gilet jaune. Nous recevrons aussi des représentants des CRS pour revenir sur cette journée pas comme les autres. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. N'hésitez surtout pas à réagir sur les réseaux sociaux à l'écoute de ces 2 heures d'actu. Publiez vos commentaires sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Bienvenue à vous tous, il est 18h. Et bonne fin de journée avec Europe 1. Le journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Vous le disiez, acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes et des tensions à Paris, totalement quadrillées depuis ce matin par plus de 8000 membres des forces de l'ordre. Tensions particulièrement dans le quartier de Saint-Lazare en ce moment, vitrine cassée, banque visée. Nous serons sur place, rien à voir avec les violents débordements de samedi dernier. Nous irons aussi à République où la marche pour le climat est en train de se terminer. Climat beaucoup plus calme, vous l'entendez. Mobilisation aussi en région, nous serons à Toulouse, situation tendue ce soir. Globalement, le ministère de l'Intérieur parlait à la mi-journée de 31 000 manifestants à travers toute la France, contre 36 000 samedi dernier. Et ce qui marque surtout ce soir, c'est le nombre record d'interpellations, plus d'un millier sur toute la France et plus de 700 rien qu'à Paris. Pas de prise de parole d'Emmanuel Macron, mais nous verrons dans ce journal comment il prépare sa riposte.
Europe 1. Des tensions mais sans commune mesure avec les violents débordements de samedi dernier. On va commencer par le quartier de la gare Saint-Lazare à Paris.
Direction effectivement ce quartier car c'est l'un des secteurs où se concentrent ce soir les tensions entre manifestants et forces de l'ordre dans une capitale quadrillée par les escadrons de CRS et de gendarmes mobiles et les blindés de la gendarmerie qu'on a vu circuler au niveau des grands boulevards cet après-midi. Justin Morin, vous êtes donc place Saint-Augustin près de la gare Saint-Lazare. Il y a déjà pas mal de dégâts, Justin.
Oui, effectivement. J'ai suivi un groupe, Boulevard Haussmann, qui se rendait justement vers la gare Saint-Lazare. Et autant certains manifestants s'en prennent à des cibles bien précises, hein, des banques ou des assurances, d'autres cassent n'importe quoi sur leur passage à coups de barres de fer ou de poteaux métalliques trouvés dans la rue. Par exemple, une boutique d'orthopédie complètement défoncée et pillée par des casseurs. Ces mêmes casseurs qui ont ensuite utilisé les jambes des mannequins pour détruire d'autres vitrines. Alors, actuellement, effectivement, je ne suis pas très loin de la gare Saint-Lazare. Les gilets jaunes ont été bloqués sur cette place Saint-Augustin. Deux barricades ont été érigées, puis enflammées. Et ça fait bien 4 fois que les CRS chargent, soutenus par les canons à eau et les gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Mais à chaque fois, la même situation se reproduit. Tout le monde revient sur cette place Saint-Augustin. Et dans l'eau des manifestants, beaucoup de gilets jaunes venus de province qui se déplacent au gré des mouvements de foule, comme Didier, venu de Brive-la-Gaillarde.
Paris, on dirait que c'est intouchable, quoi. On peut pas faire une marche tranquille, peinard, sans s'emmerder par les CRS pour nous gazer, quoi.
Parce qu'il y a les casseurs, quoi. C'est pas contre vous, certainement.
Il n'y avait que nous, là, les casseurs. Il y avait bien longtemps qu'ils s'étaient débarrés, déjà. Quand on commence à gazer, on voit ce qui c'est qui fait les choses, quoi. On s'est même mis les mains sur la tête pour éviter de se faire emmerder. Et taper dessus, quoi. Faut pas. C'est quelque chose qui choque, quoi.
Alors, ces manifestants-là, eux, sont en train de quitter la capitale pour rentrer chez eux. La nuit est maintenant tombée. Il faut le signaler, effectivement. Moi, je n'ai pas été témoin de violences telles qu'on a pu voir la semaine dernière, des violences au corps à corps entre des manifestants et des CRS. Mais après, je n'étais pas partout dans la capitale, mais je n'ai pas été témoin de ces scènes-là. Pour l'instant, place Saint-Augustin, les CRS continuent de tirer des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. De nombreux gilets jaunes continuent donc d'avancer en groupe dans le quartier. Et il est vraiment très difficile de savoir quelles sont leurs intentions, tant les profils de ces manifestants paraissent divers.
Merci beaucoup Justin Morin. On reste à Paris, on prend la direction de la place de la République. Climat nettement plus apaisé. On retrouve Jeanne Bergaoui. C'est place de la République, Jeanne, qu'arrive la marche pour le climat.
Effectivement, plusieurs centaines de militants de la marche pour le climat côtoient ici les cortèges de gilets jaunes arrivés au compte-gouttes tout l'après-midi, place de la République. Une place désormais teintée de jaune fluo jusque sur la statue en plein centre de la place, puisque plusieurs jeunes viennent d'escalader le monument pour y accrocher un gilet jaune. Alors jusqu'ici, l'ambiance est assez décontractée. Pas de casseurs, pas de lacrymo, c'est plutôt merguez grillée et fanfare. Avec la tombée de la nuit, Idir appelle à ses camarades gilets jaunes à rester calmes.
Les gilets jaunes, restez zen, restez calmes, tout se passera bien, on a gagné une bataille. Voilà, réfléchissez bien à ce que vous faites, ne vous laissez pas emporter par des mouvances ou par des débiles qui croient que c'est avec la violence qu'on réglerait tout. C'est faux et archi faux. La France, c'est notre pays, on l'aime. Je trouve notre pays beaucoup plus joli quand je ne vois pas des flammes partout ou des voitures retournées, forcément.
Les gens sont en train de se disperser ici, sans incident pour le moment. La place de la République est quadrillée par les forces de police qui en bloquent les principaux accès.
Merci Jeanne Mergaoui.
Mobilisation à Paris, mobilisation aussi en région.
Mobilisation globalement dans le calme ce matin à Marseille avec une marche depuis le Vieux-Port vers la préfecture qui a rassemblé 2000 gilets jaunes. Mais la situation s'est tendue dans la soirée sur le Vieux-Port avec des échauffourées qui ont éclaté entre forces de l'ordre et jeunes encagoulés il y a une heure. Situation tendue aussi ce soir à Toulouse. On retrouve Patrick Anselmetti. Où en est-on dans le quartier de Saint-Cyprien, Patrick ?
Alors depuis maintenant plus de 3 heures, des échauffourées opposent quelques centaines de manifestants aux forces de l'ordre. Nous sommes donc, comme vous l'avez dit, dans le quartier Saint-Cyprien, à côté du musée des abattoirs, où les émeutiers, un mélange de gilets jaunes et de casseurs, ont dressé 4 barricades qu'ils ont enflammées pour stopper les policiers et gendarmes mobiles. Ils ont utilisé des planches en bois, des poubelles ou encore du matériel pris sur un chantier à proximité. Des échauffourées qui ont fait des dégâts parmi les gilets jaunes. 7 d'entre eux ont été hospitalisés en urgence relative, selon la préfecture qui a comptabilisé 5500 manifestants à Toulouse, des gilets jaunes mais aussi des militants écologistes qui participaient à la marche pour le climat. Des forces de l'ordre ont interpellé 24 manifestants munis de barres de fer et autres projectiles en tout genre. Donc vous le voyez ici à Toulouse, la situation est loin d'être apaisée.
Merci beaucoup Patrick Anselmetti depuis le quartier de Saint-Cyprien à Toulouse.
Et ce qui marque ce soir, c'est le nombre impressionnant d'interpellations et de garde à vue rien qu'à Paris.
On peut même parler d'un record, Alain Inco.
Oui, au dernier comptage et qui date de 17h15, 737 interpellations dont 551 garde à vue, quasiment deux fois plus que samedi dernier. Il y avait eu 412 à l'issue de la journée et la nôtre de journée n'est pas terminée. La soirée ne fait qu'au commencer et elle s'annonce encore agitée à Paris. Le dispositif mis en place très tôt ce matin dans les gares, le métro, les péages d'autoroute avec contrôle d'identité, fouille des sacs et des coffres de voitures a permis d'intercepter de nombreux gilets jaunes et de casseurs qui avaient clairement l'intention d'en découdre. Pour preuve, ce qui a été saisi par les policiers et les gendarmes, de très nombreuses boules de pétanque, des frondes avec des sacs entiers de billes destinés à être projetés sur les forces de l'ordre, des battes de baseball, des masses, des marteaux, une faucille et même un harpon. Plus de 350 personnes avaient déjà été interpellées dès 10h du matin, essentiellement des hommes, alors des gilets jaunes venus de province, âgés de 25-30 ans. Et puis, après une matinée relativement calme dans les rues de Paris, un seul vrai point de fixation, on en a parlé, en haut des Champs-Élysées, bien les incidents ont commencé à se répandre dans d'autres quartiers, avec là aussi des interpellations au cœur même des attroupements, avec une nouvelle tactique des policiers par rapport à la semaine dernière, des policiers très mobiles, organisés avec en ce qu'appelle la préfecture de police, les détachements d'action rapide, un nouvel acronyme qu'il faudra peut-être retenir, le DAR. À noter que la brigade anti-gang, qui avait une centaine d'hommes sur le terrain, en civil et casqué, a été très active également. En ce début de soirée, les profils des personnes interpellées commencent à changer. Il y a de plus en plus de pilleurs venus de banlieues qui profitent du désordre pour faire leurs courses de Noël.
Et effectivement, c'est ce qui semble se passer en ce moment dans le quartier Saint-Augustin à Paris, près de la gare Saint-Lazare. Ce qui est marquant aussi, Alain, c'est que ces interpellations ont commencé dès hier soir avec dans le viseur ce que les ministères de l'Intérieur qualifient de meneurs.
Oui, alors dans meneurs, il y a un petit peu de tout. Par exemple, ce Nantais de 24 ans arrêté hier après-midi à son domicile, c'est pas un leader au sens strict du terme, mais il avait lancé des appels sur Facebook pour dire: la semaine prochaine, cette fois-ci, prenait les armes. Il parlait du rendez-vous d'aujourd'hui. Il a donc été interpellé et placé en garde à vue. Mais dans les meneurs, il y a de vrais meneurs. Un meneur de Grenoble, notamment, qui a été interpellé, qui avait appelé à une manifestation non autorisée qui s'est déroulée ce matin. Il y avait aussi Éric Drouet. Vous vous rappelez d'Éric Drouet, qui, à la télévision, avait dit qu'il faudrait aller jusqu'à l'Élysée.
Il fallait marcher sur l'Élysée.
La justice a ouvert une enquête. La police s'est présentée à son domicile d'une manière assez virile, paraît-il, hier après-midi. Mais il n'était pas là. La porte de son appartement en a fait les frais. On a laissé une convocation et il a été entendu, selon nos informations, ce matin, par la PJ de Versailles. Il s'est expliqué et à ce stade, aucune charge n'a été retenue contre lui. Et puis, encore, parmi les leaders supposés du mouvement, il y en a à l'ultra-droite, il y en a aussi à l'ultra-gauche. Eh bien, l'ultra-gauche, il y a Julien Coupa qui avait été relaxé dans l'affaire de Tarnac. Eh bien, Julien Coupa, lui aussi, a été arrêté dans le 19e arrondissement ce matin de manière un peu préventive. D'après son avocat, il a été arrêté par 5 voitures de la DGSI et qui n'ont trouvé dans son véhicule, en réalité, que 2 gilets jaunes réglementaires. Mais ça n'a pas empêché Julien Coupa de se retrouver et d'être encore actuellement en garde à vue.
Merci beaucoup, Alain Coche, chef du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1.
Pas de prise de parole d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est Édouard Philippe qui est encore monté en première ligne. Dans un instant, nous vous révélerons comment le chef de l'État compte reprendre la main.
18h13, la suite du journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Pas de prise de parole pour l'instant d'Emmanuel Macron, c'est encore Édouard Philippe, le Premier ministre, qui est monté en première ligne aujourd'hui.
C'était pour donner le premier bilan des interpellations de la matinée au ministère de l'Intérieur. Michaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1, nous a rejoint en studio. Pas de prise de parole donc du chef de l'État, mais comment a-t-on vécu à l'Élysée cette nouvelle journée de mobilisation ?
Eh bien clairement, c'est effectivement le changement de doctrine dans le maintien de l'ordre qui visait à décoaguler le mouvement, c'est le terme d'Édouard Philippe devant ses visiteurs, a atteint son objectif. Néanmoins, la lame de fond est toujours active et autour du président de la République. On se refusait encore, il y a une heure, à tirer un bilan politique de la journée, trop tôt selon un conseiller présidentiel, qui confirme tout de même qu'il y aura bien une intervention du président de la République en début de semaine. Mais à l'Élysée, on est encore catégorique, rien, on ne dit rien sur le contenu. Ce qui est clair en revanche, c'est que l'état d'esprit d'Emmanuel Macron, on le sait, a changé après sa visite au Puy-en-Velay dans la préfecture incendiée. À la sortie, il a été violemment pris à partie. Ce soir-là, le chef de l'État a personnellement constaté la force du rejet et de sa personne et de la fonction présidentielle.
Alors, on a donc vu le Premier ministre depuis hier soir en première ligne, mais vous pouvez nous révéler ce soir comment Emmanuel Macron se prépare à reprendre la main.
Alors, effectivement, on l'a dit, depuis hier, il consulte énormément, il fait le tour des responsables institutionnels au téléphone pour discuter de la situation politique, mais il a fait plus que cela, effectivement, une information Europe 1. Hier, pendant près de 3 heures, le président de la République a rencontré une quinzaine d'élus locaux de plusieurs étiquettes politiques issues de l'association Génération Terrain. Il leur a demandé de parler en toute liberté et en toute franchise pour qu'ils puissent prendre ces décisions.
Merci beaucoup Michaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1. Et puis première réaction ce soir de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National. Elle appelle Emmanuel Macron à dépasser la réponse sécuritaire pour répondre aux gilets jaunes. On écoute Marine Le Pen.
J'ai le sentiment plus que jamais que la réponse du président de la République ne peut pas être que sécuritaire. Et donc, j'appelle une nouvelle fois le président de la République à tenir compte de la souffrance qui est exprimée, à y apporter une réponse, à sortir de l'Élysée, à arrêter de se claquemurer, de s'enfermer à l'Élysée, et surtout d'apporter les réponses qu'attendent ces millions de Français, parce qu'ils restent soutenus par une très grande, une très large majorité de Français, apporter les réponses que les Gilets jaunes et les Français attendent depuis maintenant près de 4 semaines.
Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National avec Isabelle Horry à Bruxelles.
Et puis pour faire écho à ce que disait Michaël Darmon, je voudrais vous informer que nous allons recevoir dans ce studio, dans un instant, Arnaud Péricard, qui est maire de Saint-Germain-en-Laye, et Carl Olive, maire de Poissy. Ils étaient avec, en compagnie d'autres maires, ils étaient avec le président de la République, et je ne trouvais plus son nom, président de la République, j'en suis troublé, Emmanuel Macron, pendant 3 heures dans son bureau à l'Élysée. Ce sera tout de suite après ça. C'était le journal de Fabienne Lemoyle. Merci beaucoup, Fabienne.
Europe 1, 18h16.
Absolument, Philippe, la Méditerranée.
Et la météo, c'est avec vous, Valérie Darmon. Quel temps aujourd'hui ? Vous nous avez dit que le temps de demain, c'est ce qui retient notre attention, c'est le vent. Valérie Darmon, le temps de demain, est-ce qui retient votre attention, c'est le vent.
Ah.
On a perdu Valérie Darmon.
Bon bah le temps sera vendu demain.
On l'a perdu. Voilà. On l'a perdu, on l'entendra tout à l'heure.
Europe 1.
On se demandait où se trouvait Emmanuel Macron cette semaine, ce qu'il faisait. Deux maires de communes proches de Paris l'ont rencontré de manière informelle pendant 3 heures, sans filtre, pour lui raconter l'état réel du pays. Pourquoi cette crise? Pourquoi cette défiance? Ils seront dans ce studio pour nous raconter cet entretien exceptionnel.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h19, votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Philippe Vandel, et vos invités.
On se demandait où se trouvait Emmanuel Macron cette semaine, ce qu'il faisait. Deux maires de communes proches de Paris l'ont rencontré de manière informelle pendant 3 heures. Bonsoir Arnaud Péricard.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Saint-Germain-en-Laye, pour situer, c'est la ville du PSG, et vous êtes ici en exclusivité sur Europe 1, également en exclu sur Europe. Bonsoir Carl Olive.
Bonsoir Monsieur Vandel.
Vous êtes maire de Poissy, c'est pas une commune résidentielle comme Saint-Germain-en-Laye, c'est plutôt une ville industrielle, les usines PSA.
Exactement.
Pour qu'on situe. Avec nous, Mickaël Darmon d'Europe 1, qui n'a pas quitté ce studio. Tous les deux, vous co-présidez une association qui s'appelle Génération Terrain, dans laquelle on se retrouve des élus des Yvelines, toutes tendances confondues, c'est important de le préciser. En début de semaine, vous avez envoyé un SMS au président Macron. Que disait ce SMS? Que vous a-t-il répondu?
En fait, Philippe, j'ai envoyé un SMS au président Macron après les incidents du week-end dernier. Et après le défilé des partis politiques, des syndicats, en lui disant simplement, Monsieur le Président, quand est-ce que vous allez vous décider à descendre sur le terrain et vous adosser à celles et ceux qui sont en prise avec la réalité du terrain, avec les gilets jaunes et avec aussi cette grande majorité d'administrés qui ne sont pas gilets jaunes, mais qui le portent.
Il était long ce SMS, que vous a-t-il répondu?
Il m'a appelé 2 jours après pour me dire que se passe-t-il? Comment vous sentez le terrain? Ça a duré 20 minutes. Je pense que l'idée avec Génération Terrain et Arnaud, c'est de rendre service au détriment de plaire. On va en reparler. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous proposez? Et je lui ai expliqué que nous avions fondé avec Arnaud Péricard Génération Terrain, qui était transcourant, vous l'avez rappelé, qu'on était capable en 48 heures de sortir des contributions, de sortir des propositions. Mais ce qu'on souhaitait, c'est de venir le voir tranquillement, sans filtre, direct, et il a accepté.
Il dit chiche, vous y allez quand? Vous y êtes quand?
On a passé 2 nuits blanches à préparer les contributions. On a obtenu 80 contributions d'élus, de non-élus, de sociétés civiles identifiées. On n'a pas eu besoin de se forcer parce qu'on n'a pas fait de séminaire pour dire qu'est-ce qu'on va dire au président, puisque nous, la réalité du quotidien, la concertation, on l'a fait au jour le jour. Et on a simplement dit, on est capable en 48 heures de monter à l'Élysée. Et c'est ce que nous avons fait. On devait rester 2 heures, on est presque resté 3h30.
Arnaud Péricard, c'était quand? C'était à quelle heure? Et que vous êtes-vous dit?
Écoutez, c'était hier, donc vendredi, et nous sommes arrivés à 15h. Et comme Carl le disait, on est reparti à 18h. Et ce qui était, juste pour l'anecdote, c'est ce qui était assez étonnant, c'est de le président presque s'excuser de prendre du temps sur notre agenda quand on connaît le sien. Ce que l'on s'est dit, déjà, on était une quinzaine de maires autour de la table. Alors, pas de parti politique, pas d'appartenance syndicale, au syndicat d'élus en particulier, que des élus de terrain.
Mais
des
le,
élus
ton, le ton, c'était comment? C'était sans filtre?
C'était cash. Voilà, si je peux me permettre de
parler un peu. Allez-y, au contraire, racontez justement.
C'était cash.
C'était cash comment?
C'était cash, c'était un peu la règle du jeu. Nous, on venait pour faire remonter un petit peu ce que l'on ressent. Voilà, depuis quelques mois, depuis la rentrée scolaire, depuis septembre sur le terrain, ça se tend, c'est plus compliqué. Et comme le disait Carl, il y a ceux qui portent le gilet jaune et il y a ceux qui le mettent sur leur voiture ou sur le pare-brise de leur voiture. Et ça, c'est la majorité des Français aussi. Alors, on sent peut-être même qu'il y a un petit décrochage aujourd'hui, mais c'était la règle du jeu. Nous, on voulait lui dire ce que l'on ressentait et ce qu'on ressentait aussi sur le terrain.
Alors concrètement, Carl Olive, que lui avez-vous dit?
D'abord, enfermé dans un salon, sans téléphone portable, 3 heures sans discontinuer, avec une première partie où chacun des intervenants s'est exprimé sans qu'il ne soit interrompu par le président, qui a été attentif, qui prenait des notes, avec une contribution dont le titre est assez évocateur, et je dois le dire, un objectif fixé en 2017, connu de tous, mais une méthode catastrophique pour y parvenir. C'était ça le ton.
C'était quoi les thèmes alors?
On a thématisé avec l'ensemble des collègues sur la ruralité, sur le prétendu contrat gagnant-gagnant, sur le matraquage fiscal de celles et ceux qui travaillent avec des droits et beaucoup de devoirs, celles et ceux qui n'ont pas de droits, qui ont les mêmes droits, mais quasiment pas de devoirs. Il n'y a pas de contrat gagnant-gagnant par rapport à ça. Le fiasco de la fiscalité, les problèmes de sécurité, les problèmes de taxes d'habitation. Et au-delà de ça, Philippe, surtout cette méthode qui est insupportable, qui ne date pas d'hier et on pensait que ça allait changer, où toutes les décisions sont prises du haut vers le bas, sans aucune concertation.
Vous l'avez dit.
Et derrière, c'est... Pardonnez-moi l'expression, démerdez-vous. Ça ne peut plus durer, ça.
Alors, puisque vous parlez cash, vous l'avez dit, votre méthode est insupportable, car le livre...
Catastrophique. J'ai dit, monsieur le Président, votre méthode est catastrophique. Et il ne me semble pas que ce soit le fond de ce que vous nous disiez lorsque vous étiez président de la République. Et je suis républicain, donc on est très clair par rapport à ça.
Et il a accusé le coup. Dans quel état d'esprit était-il en entendant tous ces mots?
Moi, j'ai trouvé qu'il était dans un état d'esprit combatif. Il avait la maîtrise des choses. Je n'ai pas du tout trouvé... plutôt rassuré, hein, un président qui était abattu. Après, il y avait, je veux dire, les 15 maires qui étaient là, on a aussi posé en postulat qu'on est là pour que ça marche, on a envie que ça marche, on a envie que le pays se redresse et on est tous là pour ça. Alors après, la méthode est catastrophique. Je pense qu'effectivement, voilà, on l'a mis un peu à la machine à baffe pendant 3 heures. C'était un peu la règle du jeu. Je pense qu'il l'a bien pris. En tout cas, il a accepté cette règle du jeu de nous entendre et de répondre à nos questions.
Il n'argumentait pas. Il était simplement dans une posture d'écoute ou est-ce qu'ensuite, il s'est justifié?
Ah non, il nous a répondu. Je veux dire, le président a pris des notes.
Il a été cash dans la réponse.
Et après, il a été aussi... cache dans les réponses.
Oui. On a envie de savoir ça, on a envie d'être la petite souris, car l'olive cache de quelle manière? Qu'est-ce qu'il vous a dit de manière cache?
Bon, bah, typiquement, quelque chose qui nous concerne tous et qui indirectement dont pâtissent les administrés, c'est effectivement ces baisses de dotation. À Poissy, par exemple, 5 millions d'euros d'économies de fonctionnement en 4 ans, avec ce qui me permet de ne pas augmenter la pression fiscale, donc de donner du pouvoir d'achat à mes administrés, avec le même niveau de service à la population, le même niveau d'investissement. Et pourtant, ma dotation globale de fonctionnement baisse, et puis ma péréquation, on me prend en plus 1,2 million tous les ans. Il est où le contrat gagnant-gagnant? C'est pas ça le contrat gagnant-gagnant.
Et là, il vous répond quoi?
Et là, il dit, il y a des règles sur lesquelles il va falloir effectivement qu'on examine scrupuleusement ce qu'il en est. Et ça, je pense que ça peut changer.
Et avez-vous parlé des mesures qui crispent les gilets jaunes, comme la hausse des taxes sur l'essence, les 80 km/h désormais sur les routes nationales?
Oui, alors sur les 80 km/h, il nous en a parlé. Bon, moi, je ne veux pas de polémique. Il nous a dit que c'était une connerie, excusez-moi, c'était le terme.
Il vous a dit c'est une connerie?
Oui, c'est une connerie. Bon, après.
Est-ce qu'il a dit qu'il allait revenir dessus?
Alors, moi, je n'ai pas entendu ça. Il a dit que ce n'était pas une bonne
mesure.
Est-ce
qu'il a dit qu'il n'allait pas revenir dessus?
Il n'a pas dit ça, il nous a dit que c'était une connerie. Après, on a beaucoup parlé de la baisse des APL. Vous savez que nous, on a beaucoup de jeunes et on a beaucoup d'étudiants ou de lycéens qui bénéficient des APL. Il nous a dit aussi que la baisse de 5 euros des APL qui avait été faite en début de mandat, c'était aussi une connerie, voilà, et qu'il regrettait cette mesure-là. Il nous a dit que c'était une mesure qui avait été actée sous le précédent quinquennat et que s'il avait eu les moyens, peut-être il ne l'aurait pas prise, cette mesure.
La suite de cet entretien exclusif, ce récit exclusif de vous, Carl Olive, et vous, Arnaud Péricard, sur Europe 1 avec le président Macron, c'est tout de suite après une courte pause. En direct sur Europe 1, nous sommes avec Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye, et Carl Olive, maire de Poissy. Vous avez eu la chance de rencontrer hier un entretien avec 13 autres maires, ça fait 15. Le président Macron à l'Élysée pendant 3 heures, il vous a parlé cash, sans filtre. Vous avez dit qu'il vous annonçait que les 80 km/h étaient une connerie. Avez-vous parlé de la hausse annoncée puis retirer des taxes sur les carburants, l'essence et le diesel?
Philippe, je crois que c'est aussi un problème de forme. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde est conscient, et nous les premiers, que cette compilation brutale de taxes supplémentaires, même si elle faisait partie du programme du candidat Macron, est aujourd'hui inappropriée par rapport à la dure réalité du terrain que vivent ces petits salaires et ces... petite retraite. Ça ne peut pas durer. Donc, il faut trouver des solutions. Ces solutions, elles passent par la concertation, elles passent par, je dirais, un barycentre organisé avec ceux qui sont les révélateurs, les courroies de transmission du terrain, c'est-à-dire les maires.
Ouais, ça, ce sont vos mots. On va reparler ensuite de la réponse d'Emmanuel Macron. Tout de suite, avec Virginie Salmen, on va faire un round-up, ce qui se passe en ce moment, le rappel des titres, tout ce qui se passe dans Paris et en France autour de cet acte 4 des Gilets jaunes.
Oui, les heurts ont commencé en milieu d'après-midi à Paris, mais rien à voir avec les scènes de guérillas urbaines de samedi dernier. Il y a eu des violences, notamment place Saint-Augustin, autour de la gare Saint-Lazare, dans le 8e arrondissement de Paris, mais aussi rue de Bretagne, dans le Marais et sur les Champs-Élysées. Point de rassemblement majeur où vous vous trouvez en direct, Didier François, et ça y est, l'avenue a été entièrement évacuée. Didier François en direct des Champs-Élysées. Est-ce que vous nous entendez, Didier?
Oui, moi je vous entends.
Voilà, les Champs-Élysées, donc je vous disais entièrement évacué à l'heure qu'il est.
C'est ça, absolument. Ils sont vidés de leur gilet jaune. Les derniers irréductibles se sont dispersés tranquillement. Il y a maintenant un peu plus d'une heure. Les Champs-Élysées ont d'ailleurs retrouvé leurs illuminations de Noël. Tous les arbres de l'avenue brillent de guirlandes rouges après une journée qui a été quand même un petit peu agitée, mais finalement plutôt bien maîtrisée par les forces de l'ordre qui avaient déployé un dispositif aussi impressionnant qu'efficace. Les gendarmes mobiles ont d'abord interdit tout accès à l'Arc de Triomphe qui avait subi les assauts des casseurs la semaine dernière. Ils ont ensuite fouiller, désarmer toute personne accédant aux Champs-Élysées, dont toutes les rues latérales avaient été hermétiquement bouclées, ce qui avait transformé l'avenue en une véritable nasse. Ensuite, les tentatives de déborder ce dispositif par les manifestants ont été assez fermement repoussées, mais là aussi avec un usage assez dosé de la violence, des tirs de grenades lacrymogènes, bien sûr, mais finalement assez peu de charges, si ce n'est des interceptions très ciblées pour interpeller et extraire de la foule les éléments les plus excités, ceux qui lançaient des projectiles contre les forces de l'ordre. Cela a été arrêté par des unités de police très mobiles et puis emmené dans les rues latérales pour être détenu dans des bus grillagés, j'imagine, ensuite traité dans un cadre judiciaire. En fait, c'est un dispositif qui était à la fois ferme et souple et qui explique à la fois le nombre important d'interpellations aujourd'hui, puis surtout le fait que finalement, ici en tout cas, les destructions ont été très limitées.
Merci Didier François en direct des Champs-Élysées. Alors un chiffre impressionnant, plus de 1000 interpellations sur tout le territoire, mais l'essentiel à Paris, 737 personnes arrêtées, 551 gardes à vue. Plusieurs centaines de personnes ont été stoppées préventivement dès ce matin en provenance de régions. Dans les gares et aux péages autoroutiers, les policiers et gendarmes ont trouvé sur eux ou dans les coffres des voitures des couteaux, des battes de baseball ou encore des sacs de billes avec des frondes. À l'autre bout de la capitale, place de la République, ambiance très différente à l'arrivée de la marche pour le climat. Marguerite Lefebvre, vous vous y trouvez en ce moment en direct avec des gilets jaunes pacifiques.
C'est une journée en fait assez particulière qu'ont vécu ces gilets jaunes, ceux qui s'étaient donné rendez-vous à Saint-Lazare ce matin et qui ont erré, on peut le dire comme ça, dans les rues de Paris, bloqués tout d'abord dans le quartier de l'Opéra, puis bloqués de nouveau au niveau de Châtelet, face à face entre ces manifestants et les CRS qui avaient pour consigne de ne pas les laisser approcher des Champs-Élysées. Résultat, le cortège a avancé petit à petit, fait demi-tour, s'est séparé. On a même vu des scènes où des gilets jaunes ont croisé d'autres sur certaines avenues. Bref, un mouvement pas très organisé mais qui n'a jamais dégénéré. Et c'est le plus important pour William.
C'est les gilets jaunes. Ça s'est fait automatiquement. Les gens sont venus automatiquement. On ne savait pas du tout. Moi, je suis venu comme ça. On est pacifique. On n'attaque personne. On fait voir notre mécontentement. Voilà. On revendique, comme je vous expliquais, le pouvoir d'achat, les augmentations de salaire. Les gens ne peuvent plus. On a du mal à finir les fins de mois. On se demande maintenant si on doit vivre ou survivre. On ne peut plus. Arrive un moment, on ne peut plus.
William qui a donc gagné avec ce cortège la place de la Bastille, puis la République où je me trouve actuellement. À l'heure qu'il est, la plupart des gilets jaunes sont rentrés chez eux, mais certains sont toujours là, des jeunes notamment, encerclés par les forces de l'ordre tout autour de la place. Et justement, depuis quelques minutes, les manifestants font face au CRS. On a vu quelques projectiles voler. Le climat se tend progressivement ce soir, place de la République.
Et oui, on l'entend, Marguerite Lefebvre, en direct de la place de la République. La journée a également été marquée par des interpellations de leaders des Gilets jaunes, notamment Julien Terrier à Grenoble, arrêté au motif qu'il lançait une manifestation non déclarée. Éric Drouet, un autre Gilet jaune qui avait appelé sur BFM TV à prendre l'Élysée, a lui été entendu ce matin par la police à Versailles et laissé libre à la suite de son audition. Et puis Julien Coupa, principal protagoniste du procès de Tarnac, le sabotage de ligne SNCF, a été interpellé dans sa voiture dans le 19e arrondissement de Paris et placé en garde à vue. Selon son avocat, rien n'a été trouvé à bord de son véhicule hormis les deux gilets jaunes réglementaires. À Bruxelles, enfin, important coup de filet, 400 personnes ont été arrêtées sur un cortège de 1000 gilets jaunes belges dans le quartier de la Commission européenne. Une autoroute a également été bloquée, un policier blessé au visage.
Merci beaucoup Virginie Salmen, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. La suite de cette édition spéciale avec Arnaud Péricard et Carl Olive. Vous avez rencontré hier le président Macron en son palais de l'Élysée. Vous lui avez parlé cash, vous lui avez parlé des limitations de vitesse, vous lui avez parlé des hausses des taxes sur les carburants. Que vous a-t-il répondu à ce sujet ?
On lui a parlé aussi, vous savez...
Non mais je voudrais avoir sa réponse. Que vous a-t-il répondu à ce sujet ?
Justement sur le fait de traverser la rue, vous savez.
Bien sûr, j'allais en parler de son langage, mais d'abord j'aimerais savoir ce qu'il a dit sur les taxes.
Ah bah sur les taxes, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait certainement une manière d'aller, ce que disait tout à l'heure Philippe, vers les réformes qui avaient été votées en 2017, en tout cas ce pourquoi il avait été élu, mais l'objectif, encore une fois, pour les atteindre, est certainement trop précipité, et il pâtit, il faut le dire, aussi de ce qui s'est passé depuis 15 ans dans ce pays, et encore une fois, de gauche comme de droite.
Arnaud Péricard.
Il nous a dit aussi une chose très claire, hein, ça ne pouvait pas être plus clair, il disait qu'il y avait trop d'impôts et trop de taxes, trop de fiscalité dans ce pays, ça il nous l'a dit cash. Là, il avait un auditoire, évidemment, qui lui reportait, nous, toutes les charges et toutes les fiscalités qu'on est obligé de subir, nous, en tant que collectivité, mais que nos administrés également subissent. Et on ne pouvait pas avoir de réponse plus claire là-dessus.
Michel Darmon.
Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il comprenait, au fond, le rejet personnel dont il fait l'objet, puisqu'il est sans arrêt visé? Est-ce que vous avez... il comprend ça?
Oui, parce que c'était non-fin, FEUNT. C'est-à-dire qu'effectivement, il a bien compris que l'empathie, la politique du cœur qu'il avait pendant la campagne présidentielle avait totalement disparu. Et ça, c'est aussi dû à des maladresses de formules, de rhétoriques, dont on a le sentiment qu'elles ne sont pas forcément méchantes sur le fond, mais qu'elles sont catastrophiques sur la forme. D'où, effectivement, quand on traverse la rue, sur le fond, il a raison dans le département
il avait
des
dit,
Yvelines.
Il avait dit il suffit de traverser la rue pour trouver du travail.
Philippe, dans le département des Yvelines, il y a 22 000 emplois non pourvus. Sur le jeune qui lui pose la question, le lendemain, j'appelle des entreprises agricoles, il y a 600 boulots disponibles. Donc sur le fond, il a raison. Mais sur la forme, c'était catastrophique. Il faut qu'il arrête cela parce que ça l'éloigne encore un peu plus des administrés.
Mais en fait, c'est absolument exceptionnel ce qui vous a donné comme capacité à pouvoir revenir sur des propos, des polémiques. Pourquoi il le fait au fond, hier, avec vous, avec 15 maires, alors qu'il a des consultants, des conseillers, des ministres. Pourquoi c'est avec vous qui dit tout ça?
Mais Michael Darmon, tout simplement, c'est une politique de bon sens que nous menons sur le terrain. Avec les collègues de Génération Terrain, on ne se lève pas le matin en se disant...
Parce qu'il est seul politiquement aussi, il n'y a personne autour de lui peut-être pour lui donner, pour lui parler comme vous le parlez.
On va faire une politique de bon sens. C'est ça qui manque. C'est que cette politique de bon sens qu'on mène au quotidien, en concertation avec les habitants, mais bon sang... On aimerait qu'elle soit entendue là-haut et que ça ne soit pas l'inverse.
Est-ce qu'il vous a dit « je regrette de ne pas vous avoir entendu auparavant », vous et d'autres personnes qui parlent un langage vrai?
Bon, moi, je n'ai pas entendu ce genre de regret, mais j'ai surtout entendu, je pense, un président qui a envie d'aller un peu plus au contact des élus locaux. Il nous a dit qu'il avait envie d'aller sur le terrain un peu plus nous rencontrer, nous et tous les collègues de France, et je pense que ça va dans le bon sens. Nous, on est des acteurs, on est des élus du quotidien. Alors, on gère le logement social, on gère des problématiques du quotidien, les tarifs dans les cantines, beaucoup de sujets du quotidien. C'est peut-être pas des sujets nobles dans les palais de la République, mais c'est les sujets du quotidien et c'est les sujets qui préoccupent les Français. Moi, j'ai en tout cas eu, en sortant de ces 3 heures de rendez-vous, l'image d'un président qui peut-être allait commencer un peu à changer sa manière de faire.
Y compris sur le rejet de sa personne, il avait conscience de ça, parce que ça touche quelque chose de très profond.
Bah, faut dire en même temps, il n'est pas aidé non plus, hein. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est une image qu'on a entendue, notamment du côté du Sénat, c'est que les Gilets jaunes sont des troupes sans chef et que nous, on a rencontré un chef sans troupe. C'est ça, la vérité.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il avait conscience qu'il y avait un rejet de sa propre personne, au-delà même de sa politique?
Je pense qu'il est conscient, parce qu'on a eu vraiment une discussion. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un peu la machine à baffe et c'était sans concession. Et voilà, moi, je ne sais pas si on aura l'occasion d'avoir encore ce discours de nouveau, mais on a parlé aussi de sa manière d'être, sa communication, sa manière dont il avait de répondre. Et on trouvait qu'il était président de la République et que parfois, il y a des petites phrases qui sont malheureuses et qu'il ne faut pas dire.
Qu'est-ce qu'il répond à ça?
Il est conscient de ça. Il nous a dit qu'il en était conscient, en tout cas.
Michel Darmon.
Carlo Olive, Arnaud Péricard, il vous a dit des choses très, très fortes qui concernent, au fond, tous les Français. Il s'apprête à parler aux Français. Vous avez le sentiment qu'au fond, il a aussi un peu testé auprès de vous ou récupéré auprès de vous ce qu'il peut dire dans quelques jours?
Humblement, Michel Darmon, le mot tester, certainement pas. Peut-être valider, effectivement, des retours de terrain où, encore une fois, je pense qu'on va entendre parler des maires dans la prochaine prise de parole du président. On va entendre parler du contrat gagnant-gagnant. On va entendre parler de la DGF.
Mais de ce qu'il vous a dit et de ce qu'il a reconnu, qu'est-ce que vous aimeriez, au fond, qu'il confirme devant l'ensemble des Français, comme mesure?
Moi, je crois qu'il pourrait déjà s'adosser un peu plus sur nous, quoi. Il pourrait,
concrètement, les 80 km/h, il faudrait, par exemple, qu'il les annule officiellement?
Bon, moi, je ne sais pas. Vous savez, nous, en plus, on est dans des zones urbaines où les 80 km/h, déjà, personne ne roule à 80 km/h dans nos villes. Mais on peut comprendre que dans les campagnes, c'est une mesure qui manque de lisibilité, en tout cas en province. Moi, je ne sais pas s'il va revenir dessus. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il va annoncer. Nous, on était là surtout pour lui dire ce que l'on ressent au quotidien, ce que nos administrés viennent nous dire. Il y a une colère, il y a une difficulté depuis le mois de septembre. Il était dans l'écoute, il a répondu. Après, il annoncera un certain nombre de choses la semaine prochaine, on verra bien.
Et le sentiment que j'ai, c'est que les maires vont redevenir ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire des courroies de transmission et non pas des chaînes de déraillement comme parfois son indifférence le laissait à penser.
Dernière question, réponse très rapide, c'est l'ultime. Est-ce qu'il vous a annoncé une prise de parole en donnant une date ou non, ou il est resté très vague sur ce thème ?
Il est resté non pas vague, il a dit qu'il prendrait ses responsabilités, qu'elles seraient très claires et qu'il y aurait certainement un peu plus de politique de cœur, autant que faire se peut, par rapport à cela. C'est aussi un des messages que nous avons passé au président de la République.
Merci beaucoup Carl Olive, je rappelle que vous êtes maire de Poissy, vous êtes à la tête de Génération Terrain avec Arnaud Péricard qui est maire de Saint-Germain-en-Laye. Merci à Mickaël Darmon d'Europe 1.
Europe 1.
C'était mercredi à Marina d'Or en Espagne, les championnats d'Europe de taekwondo. Le titre en plus de 35 ans est remporté par le français Mamoudou Bassoum qui monte sur le podium avec un gilet jaune. Il sera à ce micro. Et puis avec nous également Julien Bayou, il est le porte-parole d'Europe Écologie et Verts, le parti écolo qui, lui, regrette l'abandon de la taxe sur le diesel et l'essence, cette fameuse taxe qui a mis le feu aux poudres. À tout de suite.
18h44, votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. On retrouve Philippe Vandel et un invité en or.
Bonsoir Mamoudou Bassoum.
Bonsoir Philippe Vandel.
Vous êtes depuis mercredi soir champion d'Europe de taekwondo. Pour être précis, médaille d'or des Masters des plus de 35 ans. C'était au championnat d'Europe. Cela se passait en Espagne à Marina d'Or et une image a frappé. En montant sur le podium, vous avez enfilé un gilet jaune. Pourquoi ce geste ?
Alors ce geste, il se justifie pour deux raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du taekwondo, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui au niveau du peuple. On a des dirigeants qui prennent des décisions qui asphyxient les petits clubs. Donc nous, finalement, notre club avait prévu de venir avec plus de 18 compétiteurs. Finalement, on est parti à deux parce qu'ils ont pris des décisions dans l'organisation de la compétition. Si on ne réserve pas par leur centrale de réservation, on a 100 euros de pénalité.
Et vous avez prévenu votre fédération ?
Non.
Vous êtes monté comme ça, c'est un geste personnel. Vous êtes également monté sur le podium avec un drapeau français.
Oui.
Pourquoi ce geste également ?
Le drapeau français, parce qu'on représente la France au championnat d'Europe d'une part, et en même temps, pour montrer notre soutien, notre insatisfaction de la politique qui se passe actuellement.
Depuis quand êtes-vous sensible au mouvement des Gilets jaunes ? Vous êtes à Montargis, mm-hmm. et vous êtes parfois sur les ronds-points, enfin, vous participez à ce mouvement.
Depuis le début du mouvement, on est sensible à ce mouvement-là parce que c'est quelque chose qui nous parle. On est avant tout citoyen et les problèmes au quotidien, ça concerne tout le monde.
La protestation des Gilets jaunes a démarré en lien avec les hausses de taxes sur les carburants. Vous avez une voiture ?
J'ai une voiture et je fais 80 km par jour. Ça me coûte presque 400 euros au mois. Donc la hausse des taxes, ça me touche directement.
Quelle est votre profession ?
Alors, je suis chef d'entreprise et en même temps, je suis consultant dans une entreprise.
Et je précise que vous êtes ingénieur.
Oui.
Ce mouvement qui est parti de la hausse des carburants, le gouvernement a annoncé évidemment qu'il allait reculer. Est-ce que ça a suffi à calmer votre ardeur ?
Effectivement, ça n'a pas suffi pour calmer notre ardeur parce que les revendications sont multiples, mais en même temps, ça reflète un mal-être. Et donc sur ça, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises pour pouvoir corriger.
Je vais vous faire entendre Julien Bayou, qui est conseiller régional d'Île-de-France et surtout le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Il revient de la marche pour le climat. Bonsoir Julien Bayou.
Bonsoir.
Comment s'est passée cette marche sur le climat ? D'un mot, on craignait des incidents à cause de la manif des Gilets jaunes le même jour. Le ministre de l'Intérieur avait appelé à suspendre l'événement. Finalement, la marche a eu lieu, mais sur un autre trajet. Est-ce qu'il y a eu des incidents ?
Non, absolument aucun incident. Vraiment une marche bon enfant. On était pacifique et déterminé pour agir dans le sens de la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis, une belle surprise à la fin, en arrivant à République, une sorte de jonction avec les Gilets jaunes qui voulaient, pour certains, expliquer qu'ils n'étaient pas du tout anti-écologistes. Que certes, comme l'a expliqué votre invité Mamoudou, les taxes sur la fiscalité carbone ont servi de déclencheur, mais qu'en fait, c'est très bien dit, le mal-être est plus profond et en fait, il y a même On peut aller dans le sens de dire lutte pour le climat et lutte contre les inégalités, même combat, mais... parce que c'est finalement un changement de politique économique complet que l'on demande, nous les écologistes, mais également les Gilets jaunes.
Alors, je vais d'abord commencer par ce sujet précisément, car vous, les Verts, Europe Écologie Les Verts, votre voix est singulière. Vous critiquez l'abandon de la surtaxe sur l'essence et le diesel à partir du 1er janvier, ce qui était réclamé partout et par tous les autres. Pour quelle raison ?
Mais nous, on pense que la parole en politique est importante. Et quand on dit depuis des années le diesel est dangereux parce qu'il y a un problème de pollution, parce qu'il y a un problème de dérèglement climatique, mais aussi parce qu'il y a un problème de santé, quand on dit qu'il y a 48 000 morts par an du fait du diesel, on doit organiser la sortie. Donc on ne va pas changer de position parce que tout d'un coup, ça devient impopulaire. Ça, c'est très important quand on dit la politique, on doit s'y tenir, les convictions, on doit s'y tenir. Donc on ne va pas déroger à ça, même si c'est impopulaire.
Mahmoudou Bassoum, pardon, juste un mot, je vais avoir la réaction de Mahmoudou Bassoum.
Ce qu'on explique par contre, et depuis longtemps aussi, c'est que l'intégralité des sommes de la fiscalité carbone, elle doit aller au développement des énergies renouvelables ou à l'accompagnement social. C'est comme ça qu'ils font en Suède, c'est comme ça qu'ils font au Luxembourg, et malheureusement en France, il n'y a que 2 milliards sur les 13 qui sont collectés qui vont au développement des énergies renouvelables. Voilà la position.
Mahmoudou Bassoum, vous êtes d'accord avec cet argument à savoir que c'est pour la bonne cause qu'il faudrait insister sur les taxes sur les carburants, diesel et essence.
Alors, je pense qu'on se trompe. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, toute la taxe qui est sur l'écologie ne va pas à l'écologie. Donc, on n'a pas besoin d'une taxe supplémentaire. Il faudrait déjà rendre à César ce qui appartient à César. Et ensuite, on réétudie les choses.
C'est également ce que dit Julien Bayou, conseiller Europe Écologie Les Verts. Il reste avec nous. Moi, je suis très heureux que vous ayez été dans ce studio, Mahmoudou Bassoum. Je rappelle que vous êtes médaille d'or des masters de plus de 35 ans. Vous êtes champion d'Europe de taekwondo et vous êtes gilet jaune. Merci d'avoir été avec nous.
Merci. 18h, 20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h51, votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Et avec vous, Philippe Vandel, on va continuer à parler des Gilets jaunes.
Oui, toujours avec Julien Bayou, vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Dans un communiqué publié lundi, votre parti déclare « La fiscalité carbone est nécessaire pour assurer de meilleures conditions de vie à la population ». Une phrase qui peut faire bondir certains qui nous écoutent.
Oui, je comprends, mais encore une fois, il faut assumer. On est face à une... menace existentielle, nous dit l'ONU.
Donc, pardonnez-moi, Julien, de vous interrompre. Je vais vous dire le sens de ma question. Pourquoi la transition énergétique à laquelle à peu près tout le monde adhère doit-elle absolument passer par la fiscalité ?
Mais parce que, par exemple, aujourd'hui, Total ne paye pas d'impôts. Vous voyez ? C'est ça. Ce que l'on reproche à Macron, c'est d'avoir instrumentalisé l'écologie pour en fait combler son budget qui est vidé par les cadeaux fiscaux, notamment aux plus riches. Mais la fiscalité carbone, c'est taxer le kérosène, taxer le fuel lourd des navires de croisière.
Ah, parce qu'on vous en parle, vous proposez
taxer les consommateurs.
Vous proposez une taxe sur le kérosène des avions, on est tous d'accord, on sait très bien que les grandes compagnies, même toutes les compagnies ne payent pas de taxes, mais vous savez très bien ce qui va se passer. Il y a aussi le principe de réalité, comme disait Freud, c'est comme pour les frontaliers. Les compagnies aériennes iront faire le plein ailleurs, dans un autre pays que la France.
Mais en tout cas, on peut déjà le faire pour les navires intérieurs, et on peut, pour les lignes
intérieures. Les vols, on avait compris.
Les vols intérieurs, pour les lignes intérieures, et puis on peut travailler au niveau européen pour le mettre en œuvre.
Allez-y, pardon.
La question, c'est que vraiment, j'insiste, aujourd'hui, la fiscalité écologique, elle repose que sur les plus pauvres. Et donc, c'est ça qui pose problème. Et les recettes servent pour Emmanuel Macron à combler son budget parce qu'ils ont développé des cadeaux fiscaux, la baisse de l'ISF, etc., pour les plus riches. Et donc, c'est là que naît ce sentiment d'injustice.
Merci.
Les gens ne disent pas « je ne veux pas payer d'impôts », les gens disent « je veux que l'effort soit partagé ».
Merci beaucoup, Julien Bayou. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir, David Michaud. Est-ce que David Michaud est avec nous ? Bonsoir. Allô ?
La liaison revient.
Allô ? Bonsoir, David Michaud.
Oui, bonsoir.
Vous êtes secrétaire national CRS UNSA Police. L'acte 4 des manifestations Gilets jaunes n'a pas conduit à des images de guerre civile comme samedi dernier à Paris et un peu partout en France, où la police, la gendarmerie ou les CRS semblaient parfois débordés. Quel bilan, vous-même, tirez-vous de cette quatrième grosse journée de manifestations Gilets jaunes ?
Alors, en premier lieu, je vais rétablir les choses. À aucun moment, on n'a été débordé. On n'est pas débordé dès lors qu'on nous donne des ordres. Le problème, c'est que les ordres, et surtout le dispositif qui a été mis en place la semaine dernière, n'était pas du tout adapté à la réalité. La différence, c'est que depuis lundi, le ministre de l'Intérieur, la préfecture de police ont entendu les organisations syndicales, dont moi, je fais partie, l'INSA Police, et on a demandé à mettre en application un dispositif très particulier qui était l'importance d'une mobilité, d'une réactivité dès lors qu'il y avait une agression et, ou un fait, une dégradation. La différence, elle vient de là.
L'État a mobilisé 155 escadrons de forces mobiles, 55 compagnies de CRS sur les 60 dont dispose la police, au moins 100 escadrons de gendarmerie mobile sur 109. C'était du jamais vu, il fallait ça.
Je ne sais pas, vous avez vos chiffres, ce n'est pas du tout ça. Donc, on n'est pas du tout dans ce dispositif-là, étant donné qu'il n'y a pas 150 escadrons de gendarmes mobiles. On est sur un dispositif avec 57 compagnies de CRS engagées et 80 escadrons à peu près engagés.
Dans quel état de fatigue sont vos collègues pour les premiers retours que vous avez eus?
Aujourd'hui, oui. Donc, les collègues sont très, très mobilisés. On a des vacations qui ne sont pas encore finies. Donc, il y a une fatigue réelle. Mais la fatigue, elle ne vient pas de la journée. Elle vient de la longueur du dispositif qu'on a depuis plus de 3 semaines. Elle vient de là, surtout.
Voilà. Votre syndicat ne demandait pas l'instauration de l'état d'urgence, mais une réorganisation sur le terrain. Vous avez été entendu.
Ah, tout à fait, on peut que s'en satisfaire. On voit le nombre d'interpellations qui font en sorte qu'on avait raison dans notre demande. Donc voilà, maintenant, la journée n'est pas encore finie. On n'est pas à l'abri de certaines reprises. En province, il y a encore 2-3 endroits où c'est encore assez motivé. Donc voilà.
Merci beaucoup, David Michaud. Je rappelle que vous êtes secrétaire national CRS, UNSA Police. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h de Sophie Tussaud. A tout de suite sur Europe 1.
18h-20h, Philippe Vandel sur Europe 1.
La suite de cette édition spéciale consacrée à l'acte 4 des manifestations des Gilets jaunes. Une journée qui a démarré à 6h du matin sur Europe 1, partout en France. Toute la rédaction mobilisée en édition spéciale autour des Gilets jaunes. Après avoir entendu les Verts, qui réclament toujours une taxe sur l'essence et le diesel, nous recevrons Valentin Saint-Just, trésorier du Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen. Et puis à 19h30, un débat pour prendre du recul, analyser et surtout se demander ce que peut faire l'exécutif désormais. Que peut-il annoncer alors que la parole du président a été pour le moins inaudible ces dernières semaines? Semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Vous avez bien fait de choisir Europe 1.
Et oui, et c'est le moment de nous dire comment vous avez vécu cette nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. Vos commentaires sont les bienvenus sur Europe1.fr ou encore sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il est 19h. Bon début de soirée à l'écoute d'Europe 1. Le journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes, important dispositif de sécurité partout en France. Détention dans le cœur de Paris, nous serons avec nos reporters sur place. La colère s'est donc exprimée partout dans le pays. Des heurts ont éclaté, même à Marseille, où le mot d'ordre était pourtant de rester pacifique. Toujours pas de prise de parole d'Emmanuel Macron, le président qui s'exprimera prochainement. Prépare sa réponse. Et puis, autre manifestation aujourd'hui pour la défense de l'environnement. Vous verrez que justice sociale et justice climatique ont été placées au même niveau.
Europe 1.
La mobilisation des Gilets jaunes est restée globalement calme à Paris jusqu'au début d'après-midi où la situation s'est brusquement tendue.
Oui, notamment aux abords des Champs-Élysées. Des casseurs ont alors tenté d'attaquer le drugstore Publicis en haut de l'avenue. Des violences ont éclaté avenue Marceau et Friedland dans le 8e arrondissement. Plusieurs points de tension subsistent ce soir, notamment dans le quartier de la gare Saint-Lazare où des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre viennent de se dérouler, Justin Morin.
Oui, effectivement, un petit groupe de jeunes cagoulés ont retourné une voiture dans une rue étroite à deux pas de la gare Saint-Lazare avant d'y mettre le feu. J'étais juste à côté quand la voiture s'est enflammée sous les hurrahs des autres personnes qui entouraient la voiture. Pas de gilets jaunes aux alentours, hein, je le précise, c'était assez impressionnant parce que les flammes ont léché les murs des immeubles de la rue. Elles montaient au moins jusqu'au deuxième étage. Et comme depuis le début des affrontements ici, les CRS ont chargé violemment pour disperser les foules et laisser les pompiers intervenir. Et toujours derrière ces mêmes images, ces mêmes groupes qui courent pour échapper au gaz lacrymogène. Actuellement, la situation s'est à peu près calmée, hein, mais les forces de l'ordre sont encore très très présentes ici. Elles bouclent le quartier. Le feu est éteint et ici, il faut reconnaître qu'il y a toujours beaucoup de monde. Mais les gilets jaunes sont de moins en moins visibles. Hein. Certains veulent retourner vers les Champs-Élysées pour terminer la journée ou patientent ici sans trop savoir quoi faire. Enfin, d'autres appellent aussi à rejoindre les manifestants présents place de la République.
Merci Justin Morin. Dans le quartier de la Gare Saint-Lazare à Paris, et justement, nous prenons tout de suite la direction de la place de la République où on rejoint Jiane Bergaoui. Jiane, la tension est montée d'un cran.
Exactement. Pour la deuxième fois maintenant, en moins d'une demi-heure, la place de la République vient de se vider d'un coup, noyée sous un nuage de gaz lacrymogène. Ses occupants, des gilets jaunes en majorité, mais aussi des passants, se sont retranchés dans les rues adjacentes, les yeux rougis par la fumée. Alors la situation a dégénéré d'un coup, un peu après la tombée de la nuit. Jusqu'ici, l'après-midi avait pourtant été très calme, à tel point que les forces de l'ordre venaient de rouvrir la place à la circulation. Ça n'aura duré que 10 minutes, puisque la situation s'est tendue très rapidement après un face-à-face entre manifestants et policiers. Des jeunes ont lancé des projectiles et des bouteilles en verre. Ils ont hué les forces de l'ordre qui ont répondu en envoyant des dizaines de bombes lacrymogènes. Pour l'instant, le face-à-face se poursuit dans la plus grande confusion.
Merci Jiane Bergaoui, place de la République à Paris. Depuis ce matin, 551 personnes ont été placées en garde à vue à Paris, 720 au total dans tout le pays, sur près de 1000 interpellations, des arrestations qui sont intervenues pour la plupart avant même que les manifestants ne rentrent dans la capitale. Il y a eu 55 blessés, en tous les cas au moins 55 blessés recensés à Paris, parmi lesquels 3 policiers qui ont été sérieusement touchés.
76 900 gilets jaunes étaient mobilisés partout en France à la mi-journée, selon une source policière.
Oui, globalement, les défilés ont eu lieu dans le calme, malgré quelques heures, comme à Marseille, où ils étaient 2000 à défiler. Une dizaine de personnes a été interpellée. Pourtant, Nathalie Chevance, le mot d'ordre de la journée était pacifique.
Oui, des gilets jaunes qui pour beaucoup portaient un brassard blanc, malgré tout et en dépit d'un service de sécurité assuré par une cinquantaine de volontaires. Des éléments extérieurs plutôt jeunes, en cagoulé, se sont infiltrés dans le cortège avec pour objectif casser. Intervention des gilets jaunes. Qu'est-ce que vous êtes en train de leur dire ?
De se barrer.
Et ils n'ont rien à faire là. On n'en veut pas de ça. Pas d'incident, rien.
Eh bien, on les veut pas, on les met dehors, on les veut pas.
Nouveau moment de tension un peu plus tard sur le Vieux-Port face aux gendarmes mobiles, tirs de grenades lacrymogènes, les gilets s'accroupissent par terre.
Pacifique, pacifique.
Ben, on montre qu'on n'est pas là pour qu'il y ait de la violence et que ça dégénère, on est là pour que le peuple ait plus de pouvoir d'achat, pour qu'ils arrêtent de toucher à nos vieux, qu'ils arrêtent de toucher à nos jeunes. On n'arrive plus à vivre. Moi, j'ai ma grand-mère, ma mère, ils galèrent tous les mois, c'est pas normal.
Au fil de la journée, les esprits s'échauffent. Une jeune femme portant un gilet jaune est blessée à la tête. Macron démission, hurlent les manifestants. Parfois, la colère explose.
On veut vivre ! On veut travailler dignement ! Il y en a marre !
Et à l'issue de la manifestation des gilets jaunes, plusieurs casseurs se sont affrontés aux forces de l'ordre ce soir le long de la Canebière, avec feu de poubelle et quelques vitrines de magasins forcés.
Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1 à Marseille.
Dans un instant, les réactions politiques et comment Emmanuel Macron prépare sa réponse.
Il est 19h08, la suite du journal Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
À l'issue de cette quatrième journée de mobilisation des Gilets jaunes, Jean-Luc Mélenchon dénonce un échec du gouvernement.
Oui, le leader de la France insoumise souhaite que les citoyens puissent retourner aux urnes et il demande la dissolution de l'Assemblée.
La dissolution me semble s'approcher comme une issue raisonnable, tranquille et positive, à mesure que le pouvoir échoue dans tous ses objectifs. Il faut que l'exécutif le comprenne. Il a affaire à une révolution citoyenne, c'est-à-dire des gens qui veulent prendre le contrôle de leur existence et qui en ont assez d'avoir comme logique de vie la survie. Et donc ça, c'est une affaire de politique. Bon sang, c'est pas si compliqué que ça. Il y a plusieurs thèses qui sont en présence. On pensait que les élections avaient réglé ça, ne les ont pas réglées. Vous vous rappelez du niveau monstrueux de l'abstention et de ce deuxième tour étrange que nous avons eu pour la présidentielle. Bon, voilà, il faut maintenant que ça se règle. Et ben, votons. On est toujours prêts. Et on l'est depuis un moment.
Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Pour l'instant, Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé. Il devrait prendre la parole en début de semaine. Jean-Rémy Baudeau, l'exécutif prépare à présent une réponse politique.
Ah oui, Sophie, alors à l'heure où l'on se parle, l'exécutif semble avoir réussi à contenir la majeure partie des violences, mais il n'a pas pour autant réussi à contenir la colère des Gilets jaunes. La réponse politique, elle devrait donc intervenir en début de semaine, probablement lundi. L'Élysée refuse de confirmer, de dire quand et comment, ni quel sera le contenu contenu précis des annonces, mais le président devrait apporter du changement. Alors attention, l'Élysée campe sur sa trajectoire, on ne parle pas de changement de cap, mais la méthode devrait être différente. Il faut rendre nos mesures plus acceptables, plus accessibles à tous les Français, me confie aujourd'hui un proche du président. Une nouvelle méthode donc, avec plus de concertation, en s'appuyant notamment beaucoup plus sur les maires. Une quinzaine d'entre eux ont vu le président hier. Vous les avez entendus d'ailleurs sur Europe 1 il y a quelques instants. Emmanuel Macron leur aurait confié ses regrets sur les APL ou les 80 km/h. L'heure est donc à la discussion, à la main tendue. On est entré dans le temps du dialogue, me confirmait ce soir un conseiller. Après plusieurs semaines de violence, c'est de toute façon la seule issue pour le président.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Il n'y avait pas que les gilets jaunes mobilisés aujourd'hui.
Il y avait également des marches pour le climat à Lyon, Toulouse, Paris-Paris où entre 17 et 25 000 personnes se sont rassemblées. Une marche sans heurts de la place de la Nation à la République où des gilets jaunes ont défilé aux côtés des gilets verts.
Je viens de dire que l'urgence était, la première urgence était l'urgence climatique au moment de la COP24. Il n'y aura pas de justice climatique sans justice sociale. Et ce n'est pas en accroissant les inégalités sociales qu'on pourra financer la transition écologique. La transition écologique, c'est un vivier d'emploi extraordinaire pour peu qu'on s'en donne les moyens. Et l'argent pour financer cette transition existe. Il faut juste aller le chercher là où on doit le prendre et pas dans la poche des plus pauvres.
Il faut se souvenir quand même dans notre histoire commune que pour arracher des acquis, il faut quelquefois se battre. On est là pacifiquement et c'est ce que nous avons toujours fait. Il y a de véritables combats à mener et notamment pour l'avenir.
Et au gouvernement, l'argent que vous nous prenez pour les taxes, mettez-les intégralement dans les transports gratuits pour que les gens puissent se déplacer sans leur véhicule. Ainsi, on avancera, parce que là, ce que fait le gouvernement n'est pas du tout climatique. J'en suis à ma 4e manifestation, ça ne m'était pas arrivé depuis mai 68, j'avais 18 ans à l'époque.
Des témoignages recueillis pour Europe 1 par Laure d'Autriche.
Il était sympathique ce témoignage et ce rire. Et avant de refermer ce journal, nous vous rappelons que ce week-end se tient la 32e édition du Téléthon.
Et pour faire avancer la recherche, vous pouvez faire un don pour cela. Un seul numéro, le 3637, un seul site, téléthon.fr. À 19h, 32 410 051 euros avaient déjà été récoltés.
C'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie. Et la météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Le ciel agité d'aujourd'hui va-t-il se calmer demain ?
Eh bien pas vraiment. Des pluies ou des averses vont concerner encore la majeure partie de la France. Il pleuvra moins de la Bretagne aux Pyrénées. En revanche, davantage sur la façade est et sur l'ouest du massif central. Au nord de la Seine, les averses tourneront à l'orage aussi en matinée. Il neigera beaucoup au-dessus de 1000-1200 mètres sur les Alpes et le massif central. Aussi dans le Jura et dans les Vosges, à partir de 800 mètres d'altitude. Sur le pourtour méditerranéen et sur l'est de la Corse, le soleil va s'imposer sous de violentes rafales de vent. Les températures oscilleront le matin entre 5 et 12 degrés, de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 8 à 13 sur la moitié nord et sur le centre, 12 à 15 au sud et jusqu'à 20 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Le Rassemblement National, comme beaucoup d'autres partis, y compris à l'extrême gauche, soutient les Gilets jaunes. Le parti de Marine Le Pen, qui avait il y a plusieurs semaines appelé les Gilets jaunes à manifester sur les Champs-Élysées, ce que beaucoup lui reprochent à cause des débordements que l'on connaît. On en parle avec Valran de Saint-Just, il est trésorier du Rassemblement National. A tout de suite.
19h15, votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h. Vous écoutez Philippe Vandel. Et maintenant, vous accueillez votre prochain invité, Philippe.
Bonsoir, Valran de Saint-Just.
Bonsoir.
Vous êtes trésorier du Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen. Le 17 novembre, pour la première manifestation des Gilets jaunes, vous y étiez. Vous aviez manifesté, enfin sans manifester, tout en manifestant, vous portiez un gilet orange. Et aujourd'hui ?
J'y ai été trois fois. Le 17 novembre, la première fois, c'était un vieux gilet que j'avais trouvé dans ma vieille voiture. Et puis les deux autres fois, j'ai trouvé un gilet jaune. Et j'ai été sur les Champs-Élysées, mais comme vous le dites, manifester sans manifester. C'est-à-dire que nous, notre but a été...
Mais aujourd'hui, vous ne m'avez pas répondu.
Non,
vous
aujourd'hui,
étiez...
je n'y ai pas été. Non, non. Parce que notre but a été de ne pas politiser le mouvement des Gilets jaunes. Il est autonome, il est sui generis, pour parler de façon un peu pédante. Ouais. Il est sorti un petit peu de... C'est extraordinaire, d'ailleurs,
vous dire qu'il
observer.
S'est généré de lui-même, par lui-même. Sui generis, ça veut dire ça.
Oui, c'est ça, voilà. À l'aide des réseaux sociaux, maintenant, de Facebook, de Twitter.
C'est quand même Marine Le Pen qui avait proposé d'aller manifester sur les Champs-Élysées le 23.
Elle n'a pas fait ça exactement. Elle a dit au ministre, pourquoi n'autorisez-vous pas les manifestants à aller sur les Champs-Élysées? Je ne veux pas vous la faire longue, mais moi, j'y ai été donc deux fois Et puis j'ai bien regardé ce qui s'est passé aujourd'hui. Le ministre a fait n'importe quoi avec les Champs-Élysées au point de vue maintien de l'ordre.
Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur,
Castaner, ça a été, et ça a attisé d'ailleurs les tensions, et c'est ce qui a expliqué notamment ce qui est, la façon dont ça s'est passé la
Alors,
dernière fois,
c'est-à-dire
très mal.
Puisque vous citez Christophe Castaner, lui, il avait pointé une mobilisation de l'ultra-droite parmi les manifestants, je le cite, « Les forces de l'ordre ont dû repousser les séditieux qui ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires de la majorité. »
Mais ça, c'est du n'importe quoi de la part de M. Castaner, d'ailleurs. C'est ce n'importe quoi qui est là aussi pour attiser les tensions. De très mauvaises analyses, des fausses analyses faites à mauvais escient, mais faites exprès pour attiser les tensions. Au contraire, je peux vous dire qu'au Rassemblement national, on a reconnu, tout le monde a reconnu que nous avions eu un comportement parfaitement responsable et que nous avions surtout constaté que les Gilets jaunes portaient le discours que nous avons depuis maintenant 40 ans.
Oui, et vous avez condamné les casseurs ?
Ah bien entendu, mais enfin, on me demande ça depuis 3 semaines ou 1 mois.
Bah, c'est légitime, beaucoup de casseurs font partie de l'extrême droite. C'est légitime qu'on vous pose la question.
Avez-vous ça ?
Non, pas du tout.
Pas du tout, des gens d'ultra-droite, personne n'en a véritablement vu. Ils ont réussi à en mettre un, mais alors, qui n'a rien à voir avec nous. De toute façon, nous ne sommes pas de l'ultra-droite, nous ne sommes pas de l'extrême droite. À la une de Paris Match, ils ont fait une erreur absolument considérable. Et je ne crois pas d'ailleurs que c'était un casseur. Non, monsieur Vandel, il faut regarder. Vous savez, je ne veux pas du tout dire qu'on est dans la fake news, mais quand même, là, il faut être extrêmement prudent. Ce soir, par exemple, vous avez des militants d'ultra-gauche, mais vous avez surtout des voyous qui sont venus pour piller les magasins.
On l'a vu ici, dans les journaux d'Europe.
Et si vous voulez, là aussi, le gouvernement, peut-être pas simplement celui-là, mais les autres payent le laxisme qu'ils ont observé depuis très longtemps, depuis des années, à l'égard de ces deux groupes. Le 1er mai, lorsqu'il y a eu ces Black Blocs qui sont venus tout casser dans le 13e arrondissement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait contre eux ? Rien. Ni au moment de la manifestation, ni après la manifestation. Dans les banlieues, dans les quartiers chauds, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Le gouvernement a la monnaie de sa pièce sur le plan de l'ordre à l'heure actuelle.
Quand même d'un mot, on l'a appris grâce à France 3 Occitanie, un des porte-parole des Gilets jaunes, celui qui avait lancé l'idée de la manifestation parisienne du 24 novembre, c'est un ancien militant Front National, il s'appelle Franck Buller, il a été exclu, je le précise, du FN en avril dernier, pour avoir tenu des propos racistes contre les Noirs et les musulmans.
Eh bien, vous voyez, il a donc été, dès qu'il a tenu ces propos-là, il a été exclu. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Nous, tout le monde a reconnu, reconnaît d'ailleurs le travail de Marine Le Pen sur le fond, tant en ce qui concerne le Rassemblement national que son programme politique. Et encore une fois, si on parle du fond aujourd'hui, ce qui m'étonnerait, monsieur Vandel, vu que le temps passe vite, les Gilets jaunes ont adopté ce que nous disons depuis 40 ans.
Sur le fond, j'écoutais ce matin des commentateurs politiques qui étaient unanimes sur un point. Le mouvement des Gilets jaunes profite à un seul parti, le Rassemblement national. Est-ce que c'est aussi votre avis ?
D'abord, je n'aime pas le mot « profiter », parce que nous ne sommes pas là pour profiter, mais il est certain que, regardez, les questions fiscales, les questions de pouvoir d'achat, ce que nous avons appelé de façon assez péjorative depuis très longtemps, on n'utilise plus trop ce mot-là parce que c'est un peu ringard, mais le fiscalisme, nous l'avons toujours dénoncé, c'est certain, et il ne faut pas prendre ce mouvement à la légère, il ne faut pas trop se perdre dans les questions de manifestations, de violences, etc. Il y a une chose qui est très vraie, c'est qu'un très grand nombre de Français qui souffrent énormément se lèvent maintenant, depuis un mois, au moins tous les samedis, et pour d'autres très nombreux pendant toute la semaine, pour crier leur colère. Vous comprenez, ce Vandel, quand il y en a un qui, sur les Champs-Élysées, a dit aujourd'hui « Je bosse 45 heures par semaine, excusez-moi, je l'ai noté, hein. Je suis à découvert, je ne bougerai pas », eh bien, ça suffit, ils ont fait le travail qui est de montrer l'extrême souffrance de très nombreux Français, et nous sommes évidemment à leur côté.
Les prochaines élections seront les européennes, en mai prochain. Et si les Gilets jaunes constituaient une liste, ça vous gênerait ou cela vous arrangerait ?
Chacun fait ce qu'il veut et pas de problème.
Ah, je sais que chacun fait ce qu'il veut, mais ma question était, est-ce que ça vous arrange ou est-ce que vous dites
ils vont nous prendre des voix ? Écoutez, plus le spectre, on peut parler de Nicolas Dupont-Aignan aussi, plus le spectre de mouvements politiques qui porteront des idées capables de redresser la France, plus ce spectre est grand, mieux nous nous porterons, mieux la France se portera et mieux notre parti politique se portera aussi. Parce que véritablement, je pense qu'il faut très bientôt arriver, et ça serait le boulot du président de la République, Marine Le Pen l'a redemandé aujourd'hui de façon pressante, à des solutions, je dirais, drastiques et qui change complètement la politique menée par M. Macron depuis 18 mois, mais menée par les gouvernements antérieurs aussi, avant.
Merci beaucoup Valéron de Saint-Just. Je rappelle que vous êtes trésorier du Rassemblement National.
Et élu de Paris.
Et élu de Paris. Les manifestations et après, maintenant, il va bien falloir se mettre autour d'une table et discuter. C'est le moment de prendre du recul. Que faire de cette révolte du côté des Gilets jaunes et du côté de l'exécutif? On en parle dans notre débat juste après ça.
Les Gilets jaunes au cœur de l'actu. Durant cette prochaine demi-heure, nous vous proposons un débat dans votre grand journal du soir avec Philippe Vandel. Il est 19h24. Bien sûr, vous pouvez réagir en publiant vos messages sur europe1.fr ou encore sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
C'est le moment de prendre du recul avec Mariette Dalry-Grand. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sémiologue, vous analysez les discours politico-médiatiques. Aymeric Patricot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de lettres, vous êtes auteur et j'ai voulu vous recevoir après une tribune signée par vous dans Le Monde. Ça s'appelle La révolte du Gaulois roulant au diesel, dans laquelle vous racontez votre expérience de vie dans ce qu'on appelle désormais la France périphérique, même le mot les territoires, ce petit terme condescendant. Charles Villeneuve, bonsoir.
Bonsoir.
Grande voix d'Europe 1, grand spécialiste de cette justice. Question, la première question, que faire de cette révolte du côté des Gilets jaunes et du côté de l'exécutif? J'ai commencé par vous, Charles Villeneuve. Alors qu'on craignait le pire, les forces de l'ordre n'ont pas semblé cette fois être dépassées. Comment expliquez-vous ceci? La stratégie a changé.
Oui, nettement. C'est-à-dire que samedi dernier, le dispositif des forces de sécurité avait adopté une posture défensive. Il réagissait avec un temps de retard. Et aujourd'hui, au contraire, ils ont adopté une posture, je dirais, à la limite agressive, en tout cas réactive, et une posture offensive. Ils ont commencé par une technique d'anticipation très connue, c'est de se présenter à l'heure du laitier, notamment au poste de péage pour fouiller les coffres des gilets jaunes, mais pas seulement des
Pardon,
gilets jaunes.
Pardon, c'est le contraire de l'agressivité, c'est en douceur au contraire.
Oui, les perquisitions, vous trouvez que c'est... Moi, je trouve que c'est un viol souvent de ce qui vous avez de plus privé.
Bah, si vous avez un sac à dos avec des boules de pétanque...
Mais c'est ce que je dis.
Oui.
Mais, de toute façon, vous devez être agressif par rapport à l'agressivité.
Exactement.
Mais en même temps, quand vous faites une perquisition, vous avez subi une perquisition?
Jamais.
Non? Eh bien, alors de quoi vous parlez?
Eh bien, je vous posais la question. Bon, on a l'impression.
Je vous explique.
Et ça m'intéresse ce que vous dites, parce qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, sans être spécialiste, qu'au contraire, c'est agir en douceur que d'agir en amont, plutôt que d'agir sur le terrain.
Vous trouvez que ce qui
bastonne.
S'est passé aujourd'hui, même si c'est largement atténué par rapport à samedi dernier, c'est évidemment. On a compté fleurette au dispositif, les uns et les autres se sont embrassés, puis ensuite. Ont ouvert leur sac en disant « je mets à votre disposition des boules de pétanque ». Non.
Si bien sûr voulez... que non, Charles, je ne suis pas naïf. Mais je veux dire par là que l'Arc de Triomphe n'a pas été vandalisé.
Oui, mais heureusement. Heureusement, sur ce plan-là. En tout cas, donc, à 10h du matin, cette technique d'anticipation avait à déboucher sur à peu près 330 interpellations et autant de gardes à vue. Aujourd'hui, on en est à 7h-ci plutôt à 777. Donc, ce qui, par rapport aux chiffres de la semaine dernière, montre que la stratégie, évidemment, a été fondamentalement différente de celle de samedi dernier.
Mariette Dalry-Grand, qu'avez-vous pensé de cette journée, de cette semaine? Vous vous intéressez, je l'ai dit, au langage. Presque tous les témoignages disaient « je condamne la violence », les témoignages des Gilets jaunes disaient « je condamne la violence », mais s'il n'y a pas de violence, nous ne sommes pas entendus.
Oui, certes, mais là, je crois que cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que le politique s'est réancré, si vous voulez. Quelle est la première mission du politique? C'est de réguler la violence. On l'a oublié, parce que maintenant, on fait de la politique experte. La politique est fort heureusement dans une démocratie tempérée. Ben, on n'a plus besoin de régler cette question-là. Elle s'est rappelée à nous. Et j'ai trouvé que c'était quand même, au-delà de choses qui sont toujours dans l'excès, etc., quelque chose de très intéressant s'est passé. Il me semble une sorte de grande leçon d'instruction civique à beaucoup d'égards. Et on a vu des gens comprendre ce que c'est que le politique. Et même, je dirais, de manière un peu... chacun d'entre nous, hein, c'est les gens qui disent « on voudrait des élus du peuple ». Oui, mais des élus du peuple, il se trouve qu'il y en a. Ce sont les députés, mais les députés, on ne sait plus ce qu'ils font. Donc nous avons tous, en quelque sorte, révisé nos fondamentaux. Et la politique, c'est vraiment, quand elle est normale, quand elle est bien, c'est tout à fait ça. Il faut réguler les corps, ça a toujours été ça. Enfin, je veux dire, dans la cité archaïque, qui n'a jamais disparu, il faut d'abord que les corps soient régulés pour que le langage se réinstalle. Or, on est parti de la chose inverse. Le langage était devenu fou, de mon point de vue, puisque moi, j'aime le langage. Et quand il est dépassé par la pulsion, quelle qu'elle soit, là, je ne dis pas que c'est juste les gilets jaunes qui ont fait ça, mais quand on ne peut plus se parler dans un pays et que, précisément, il faut acter, il faut agir. Vous savez, il y a un livre célèbre en linguistique qui est « Les mots font des choses », donc « Quand dire, c'est faire », ben, on avait eu l'inverse, là, pendant quelques jours. Quand faire, c'est dire. Et à ce moment-là, quand c'est le cas, eh bien, c'est terrible, si, d'une façon générale, pour la cité.
Je voudrais qu'on entende le témoignage de Gilets jaunes. On les a rencontrés dans le cadre de notre délocalisation du 17h-20h de Mathieu Béliard dans plusieurs régions de France depuis toute la semaine. Bonsoir, Blandine. Vous êtes à Calais, vous êtes femme de ménage, votre mari est au chômage, vous avez 5 enfants à charge. Vous avez participé à la manifestation des Gilets jaunes aujourd'hui ?
Oui.
Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous ?
Personnellement fatiguée, en colère, il y a plein d'émotions qui se mélangent.
Est-ce que vous avez regardé les événements à la télévision ou est-ce que vous étiez juste focalisée sur ce qui se passait dans votre ville ?
J'ai regardé vaguement, mais personnellement, la télé actuellement, je ne la regarde plus trop parce que de toute façon, c'est un langage de sourds. On ne nous entend pas, on nous ignore.
Justement, on est sur le langage. Qu'avez-vous pensé de l'annonce par le Premier ministre de l'abandon de la surtaxe annoncée puis retirée sur les carburants ?
C'est juste l'avoir reculé. Il n'y a rien qui avance. C'est remettre le problème à plus tard. Puis s'il n'y avait que le problème du carburant, ça irait, mais il y a d'autres problèmes. Il y a l'électricité, il y a le contrôle technique qui va encore plus durcir et tout. Il n'y a pas que le gasoil, quoi.
Le gouvernement a reculé, l'exécutif a reculé sur la question du problème technique. Mais la question était, quand vous les entendez parler à la télévision, les ministres, quel effet cela vous fait ? Est-ce que vous les écoutez encore ?
Non. Non, j'allume plus la télé. Enfin, là-dessus, j'écoute plus. Je m'en suis désintéressée.
Personnellement, pour vous, c'est quoi l'impact de toutes ces mesures ?
C'est nous priver encore plus. On fait déjà beaucoup de concessions. C'est nous pénaliser, nous punir, or qu'on a juste suivi le mouvement. On subit les choses et quand on les a subies et qu'ils sont bien ancrés, on nous les retire. Mais c'est encore une fois à nous de faire un effort. Et ça, c'est pas normal.
C'était l'acte 4 aujourd'hui. Aimeriez-vous que les contestations, les manifestations des Gilets jaunes continuent ?
De toute façon, le temps qu'il faudra qu'elles continuent, elles continueront. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on parlait entre nous sur le point où j'étais, on ne lâchera rien. S'il faut qu'on soit là 3, 4, 5, 6 mois, 7, même plus, on sera là.
Merci beaucoup, Blandine, qui nous parlait depuis Calais. Vous étiez gilet jaune et vous avez manifesté aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Mariette Darigrand, vous entendez ce qu'elle nous disait, le langage des politiques leur est complètement transparent, c'est inaudible.
Oui, ça c'est vraiment grave dans une société quand on en est là. Là aussi, je vais peut-être vous interpeller un peu, les médias. Les médias doivent être des médiateurs, ils doivent aider à ce que la parole des politiques soit comprise, à ce que la parole des citoyens remonte. Cette circulation qui est totalement en panne, bon, elle a plein de raisons, elle est très structurelle, elle est très enquistée, bien sûr, mais je crois quand même que ces derniers mois, je suis une observatrice du discours médiatique, j'ai été ces derniers mois, depuis pratiquement la présidentielle de 2017, estomaquée quand même, par la position de certains médias qui ne font pas ce travail-là du tout, et qui reprennent des concepts qui circulent, même le mot colère, si vous voulez, le mot colère dont il nous a bassiné. Le mot colère est un mot qui peut être exprimé dans une manif. Elle a été exprimée, la colère, dès 2013 avec les bonnets rouges. Et ce que je trouve inacceptable de la part du média, qui doit être un intermédiaire, c'est qu'ils reprennent le mot sans guillemets, en quelque sorte, en faisant un diagnostic, la France est en colère. Ça ne sert à rien, ni pour les gens qui en effet expriment un sentiment légitime de colère, ni pour le politique qui doit comprendre ce sentiment. Il faut le décrypter, il faut enquêter dessus, il faut réouvrir. On dit colère en recyclant en permanence un mot, alors qu'il faut aller voir la chose en dessous.
On va rester sur le sens des mots. Dire, c'est faire, c'est dire. Toute la question de la politique, juste après ceci.
Il est 19h36 et vous écoutez votre grand journal du soir avec Philippe Vandel.
Et le point sur la journée de mobilisation des Gilets jaunes en France et à Paris spécifiquement avec vous Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. 125 000 Gilets jaunes ont battu le pavé partout en France. Aujourd'hui, des violences ont éclaté au cours de cette journée à Paris, Toulouse, Lyon, Marseille et Caen. Après d'importantes tensions, la situation est à présent maîtrisée. C'est ce qu'annonce ce soir Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé il y a quelques minutes maintenant. Depuis ce matin, près de 1385 personnes ont été interpellées dans le pays, 974 placées en garde à vue. La plupart des arrestations sont intervenues tôt ce matin. L'après-midi, je vous le disais, a été très tendu à Paris. Des violences ont éclaté dans le secteur des Champs-Élysées. Des manifestants ont tenté d'incendier la façade du drugstore Publicis situé en haut de l'avenue, avant d'être repoussé par la police. Des véhicules ont également été incendiés avenue Marceau et Friedland, dans le 8e arrondissement. Le secteur a été évacué. Et dans le quartier de la gare Saint-Lazare, après des affrontements en début de soirée, la situation est en train de se calmer, Justin Morin.
Oui, la preuve, plus de gaz lacrymogène pour faire évacuer les lieux. Les CRS ont enlevé leurs casques et s'adressent aux gilets jaunes et aux manifestants présents sur le parvis de la gare directement, oralement. Dans le calme, il y a un flot ininterrompu de personnes qui empruntent les escaliers qui mènent au train ici. L'heure de rentrer en province ou en banlieue a sonné pour beaucoup de manifestants avec qui j'ai discuté. Il y a aussi des gens du quartier qui commencent à ressortir de chez eux, qui découvrent les dégâts parce que c'est vrai que même si la situation s'est calmée, le décor est assez chaotique. Des abribus brisés, des pavés traînent au sol à côté des restes de grenades lacrymogènes. Beaucoup de tags aussi sur les façades, des insultes en direction d'Emmanuel Macron et les gyrophares des forces de l'ordre encore très présente ici. D'ailleurs, le parvis de la gare où je me trouve est quadrillé par des petits groupes de CRS. L'acte 4, comme l'appellent les Gilets jaunes, semble donc toucher ici à sa fin, gare Saint-Lazare.
Merci Justin Morin. Dans le quartier de la gare Saint-Lazare à Paris, 118 personnes ont été blessées depuis ce matin, parmi lesquelles 3 policiers qui ont été sérieusement touchés. Édouard Philippe, ce soir, a pris la parole aux côtés du ministre de l'Intérieur, alors que le président doit s'exprimer dans les prochains jours. Le Premier ministre annonce que le temps du dialogue a commencé.
Le temps du dialogue, il est là. Ce dialogue, il a commencé. Il a commencé par des débats dans les assemblées, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a commencé aussi avec des rencontres sur le terrain entre les responsables politiques et des représentants des Gilets jaunes. Il a commencé à Matignon, où j'ai eu l'occasion hier soir de rencontrer une délégation de ces Français qui veulent exprimer à la fois une colère et des revendications. Ce dialogue, il a commencé. Il doit se poursuivre. J'ai eu l'occasion de dire qu'aucune taxe ne méritait de mettre en cause l'unité nationale. Il faut désormais retisser cette unité nationale par le dialogue, par le travail, par le rassemblement. Le président de la République s'exprimera. Il lui appartiendra de proposer les mesures qui viendront nourrir ce dialogue et qui permettront, je l'espère, à l'ensemble de la nation française de se retrouver et d'être à la hauteur des enjeux qui sont déjà là et qui vont continuer à se poser dans les années qui viennent. Merci donc à tous ceux qui ont œuvré aujourd'hui pour protéger la sécurité des Français et place au dialogue.
Édouard Philippe, le Premier ministre, qui s'est donc exprimé ce soir à l'issue de la 4e journée nationale de mobilisation des Gilets jaunes, et le Premier ministre qui redit qu'Emmanuel Macron s'exprimera dans les prochains jours.
Merci beaucoup Sophie Tussaud.
Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir, suite de notre débat sur Europe 1 avec vous, Philippe Vandel et vos invités, Mariette Darigrand, sémiologue, Émeric Patricot, professeur de lettres et auteur, et notre grande voix d'Europe 1, Charles Villeneuve.
Émeric Patricot, vous êtes professeur. Qu'avez-vous pensé de cette séquence qui a beaucoup choqué à Mantes-la-Jolie, des élèves forcés par les policiers à mettre les mains en l'air à genoux, séquence qu'on a retrouvée à Paris, sur les Champs-Élysées, les signes, vous voyez, voyage.
Oui, c'est triste, ça fait froid dans le dos. Après, en fait, c'est un phénomène qui parasite un peu la question des Gilets jaunes. Bon, En fait, cette violence-là des lycéens, puis de la police qui répond aux lycéens, s'engouffre dans cette sorte de révolte complètement inattendue qu'est celle des Gilets jaunes, mais qu'on sentait venir depuis des mois, notamment quand on habite à la campagne. Et moi, qui suis un Parisien qui vient de m'installer en campagne, il y a 2 ans en fait, j'ai senti venir cette colère qui a un peu surpris tout le monde.
À tous trois qui êtes de fins observateurs, je voudrais qu'on revienne au sens des mots. Mariette Daguerre, vous êtes sémiologue. Je voudrais avoir votre sentiment à tous sur la manière dont l'exécutif s'est adressé aux Gilets jaunes. Mercredi, le Premier ministre s'exprimait à l'Assemblée nationale pour une déclaration du gouvernement sur la fiscalité écologique, en gros, pour faire des propositions aux Gilets jaunes. Édouard Philippe a parlé de la taxe à venir sur les carburants. On l'écoute.
Pour identifier les mesures d'accompagnement les plus justes et les plus efficaces, je le dis ici, si nous ne trouvons pas les bonnes solutions, alors nous n'appliquerons pas cette taxe. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement ne proposera pas au Parlement de rétablir ces dispositions fiscales dans le projet de loi de finances. Si un accord intervient, si et seulement si un accord intervient, nous l'inscrirons dans le projet de loi de finances rectificative prévu au printemps, prévu de longue date d'ailleurs, au printemps.
Le projet de loi de finances rectificative prévu au printemps, est-ce qu'on n'est pas totalement dans le langage techno ?
Absolument, d'autant plus que le président de la République est intervenu tout de suite après en disant « cette taxe sera annulée ».
En plus.
Bon, c'est-à-dire pas reportée, il n'y aura pas de moratoire. Donc, on est effectivement, c'est assez intéressant puisque le président est issu de cette technocratie directement. C'est cette même technocratie qui, au fond, a rétabli son poids sur la déclaration du Premier ministre, qui lui-même est issu directement de la même technocratie. Et donc, c'est le président qui a tranché. La technocratie devra revoir son langage.
Mariette Darrigrand, vous avez l'œil qui frise.
Oui, tout à fait, parce que là, c'est vraiment un cas d'école. C'est-à-dire qu'on a d'abord, en effet, le Premier ministre, qui, je crois, est sincère, hein, puisque c'est une mesure qui n'a pas encore été vraiment évaluée, etc. Donc, il a sa langue techno, c'est la technique. Et puis, quand même, Emmanuel Macron, qui aussi manie cette langue-là, là, il fait de la politique. Et à ce moment-là, il dit, il faut faire un geste symbolique. Donc, bon, soyons clairs, hein, on annule. C'est exactement ça la différence entre la techno et la politique, qui est un des problèmes de cette crise que nous vivons. Et si les politiques en place, les gouvernants en place apprennent la langue politique, ça ira mieux pour tout le monde. Je voudrais faire juste une petite remarque sur la langue journalistique.
Dites.
Maintenant, on ne dit plus les gouvernants, justement, hein, ou le gouvernement. On dit l'exécutif depuis quelques mois. Ça m'a beaucoup intéressé.
C'est vrai.
De voir arriver
c'est une
ce
très
mot.
Bonne remarque. Parce que je me suis posé la même question.
Ah bah, je veux dire, par opposition au législatif.
Absolument.
Parce que les députés sont législatifs et l'exécutif, ce sont les ministres.
C'est ça, parce que vous connaissez le fonctionnement des institutions. Mais qu'est-ce qu'on entend quand on entend exécutif ? On entend les gens qui nous exécutent. Oui. On entend quelques... Hein, voilà, c'est une façon...
C'est pour ça que je dis le pouvoir, moi.
Exactement. C'est drôle. Hein. C'est un petit détail, mais qui en dit long sur notre manière de parler ensemble.
Non, au contraire, c'est très, très intéressant ce que vous venez de dire. Alors, on a beaucoup raillé les phrases de Macron, comme « je traverse la rue, je trouve du travail, un pognon de dingue, les fainéants ». Mais vous, Émeric Patricot, dans votre tribune « La révolte du Gaulois roulant au diesel » qui est publiée dans Le Monde, vous avez analysé le discours du président. Vous avez relevé 2 expressions qui cristallisent la révolte des Gilets jaunes. Celle-ci, « les Gaulois réfractaires au changement ». Et contrairement à la plupart des observateurs, vous êtes focalisé sur ce mot « Gaulois ». Expliquez.
C'est vrai que tout le monde a pris à la légère cette expression en disant que c'était une petite blague, mais la blague dit des choses. Et Macron n'a pas dit les Français réfractaires, il a dit les Gaulois réfractaires. Et c'est un terme qui m'a frappé parce que je m'intéresse à ce thème-là justement depuis un paquet d'années avec le livre sur les petits blancs. Le mot gaulois est un mot utilisé en banlieue et ça désigne les Français blancs. Donc ce n'est pas un mot neutre. Alors je ne sais pas si Macron est conscient de l'utilisation de ce mot-là. Est-ce qu'il est conscient de la gravité ? Mais il désignait plus ou moins consciemment les Français blancs et puis des campagnes, puisque les Gaulois, c'est Astérix en gros, donc c'est les campagnes. Donc cette séquence-là a été très maladroite et mal perçue et associée à l'autre séquence qui est la fameuse séquence des braqueurs.
Donc vous dites qu'il y a scellé la détestation.
Pour moi, c'est ça. Ces 2 événements qui ont été analysés comme des micro-événements, mais ils ont scellé la détestation, voire plus profond que ça, parce que Macron signalait aux Gaulois qu'il ne les aimait pas, puisqu'il les tensait, il leur faisait beaucoup de reproches. Par ailleurs, il aimait beaucoup les jeunes braqueurs, il avait des mots très doux envers eux.
C'était à Saint-Martin, et il l'a posé dans les bras d'un ex-braqueur qui était torse nu, il y avait son cousin, on a appris après que c'était son cousin, qui faisait un doigt d'honneur.
Voilà. Alors, dans l'absolu, c'est pas si mal. Moi, je trouvais ça bien qu'il aille au contact de gens plus jeunes et au contact des peuples et des quartiers défavorisés. Mais le problème, c'est que cette double séquence, j'ironise sur les Gaulois, en gros, j'aime pas trop les Français des campagnes, et par ailleurs, je fais copain-copain avec des petits voyous de banlieue, dans l'esprit d'un campagne, il y a une sorte de court-circuit. Il y a un buzz. Enfin, il y a un buzz négatif qui est « bon, bah Macron ne nous aime pas, donc on va se mettre à le détester ». Plus toute une série de scandales, Benalla, l'affaire Salle, l'affaire Besson et compagnie, la haine s'est installée pour moi à l'été 2018.
Comment voit-on la suite? Y aura-t-il un acte 5 puis un acte 6, comme nous disait cette femme gilet jaune qu'on avait tout à l'heure au téléphone? Réponse tout de suite après ceci.
19h48, votre grand journal touche à sa fin. Oui, suite et fin de notre débat sur Europe 1 avec vous, Philippe Bandel et vos invités. Il y a d'abord notre grande voix d'Europe 1, Charles Villeneuve, mais aussi Émeric Patricot, professeur de lettres et auteur, sans oublier Mariette Darigrand, sémiologue.
Charles Villeneuve, un terme vous a fait réagir juste au moment où on se séparait pour mieux se retrouver, c'était le terme gaulois.
Oui, parce que le premier qui s'est intéressé aux Gaulois et qui a longuement disserté dans la guerre des Gaules, c'est Jules César. Après les avoir battus, après qu'il ait écrit ses mémoires, il a raconté comment il avait battu une horde de tribus gauloises alors qu'il était inférieur du tiers à peu près aux hommes. Et il avait marqué leur spécificité qui dure depuis des siècles, c'est-à-dire le sens de la querelle. Et c'est surtout ce que caractérise justement l'esprit gaulois, la querelle. Ils sont des querellaires. N'est-ce pas, professeur?
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la phrase de Macron avait quelque chose d'assez vrai. Les Gaulois aiment bien grogner, les Français en général.
Et ce peuple impossible à réformer.
C'est vrai. Mais alors, en utilisant ce mot-là, à mon avis, il a réactivé le même genre de fracture qu'en 2005. En 2005, symboliquement, c'est la révolte des banlieues. Donc, c'est les Français un peu racisés, qui s'estiment misérables, qui se révoltent. Ils en ont assez d'être humiliés. 2018, c'est la révolte des campagnes. Donc, ce n'est pas une révolte qui est contre la première, c'est une révolte parallèle. Une autre type de France qu'on n'avait pas vue, dont on pressentait l'existence, mais qu'on ignorait parce que justement, elle ne brûlait jamais de voiture. Et c'est amusant parce qu'en 2013, j'avais fait le portrait d'un paysan qui disait « Bon, bah, nous, on est un peu malheureux, mais comme on ne brûle pas de voiture, personne ne nous entend. » Eh bien, en 2008, c'est fait. Ils ont brûlé des voitures.
En
2018, pardon. C'est fait, ils ont brûlé des voitures. Et sincèrement, je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que ce serait possible.
Mais vous savez, ils ont commencé depuis 1328. Hein. Ça a continué à 1432.
Oui, mais ça fait
et
quelques siècles.
Et puis ensuite, la Révolution. Et puis après, 1930, la querelle des chemises vertes. Et puis 1950, les poujadistes. Et puis finalement, les bonnets rouges aussi.
C'est vrai, mais les bonnets rouges étaient une première annonce des gilets jaunes. Oui. C'est vrai.
Et on arrive aux gilets jaunes, justement. Bonsoir, Marie.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes à Brignoles.
Tout à fait, oui.
Vous êtes cadre?
Oui, j'étais cadre au chômage, mais oui, je suis cadre.
Vous êtes cadre au chômage?
Oui, tout à fait.
Vous avez manifesté aujourd'hui avec les Gilets jaunes pour une marche pacifique. D'abord, comment s'est passée la manifestation?
Super bien. Tout le monde était avec nous. Tous les Français, on est Français et tout le monde est avec nous et on est très contents.
Quel était le but de cette manif? Vous alliez voir le maire à la mairie, c'est bien ça?
Tout à fait, oui. Parce qu'aujourd'hui, normalement, les portes étaient ouvertes pour les doléances des Français. Donc, on voulait donner nos doléances. Et malheureusement, la porte a été ouverte, mais le maire n'était pas là.
On vous avait entendu mercredi sur Europe 1 en direct déjà. Vous alliez voir le maire pour lui dire quoi?
Pour lui, les doléances, c'est donner des revendications. C'est plein de choses et comme d'habitude, on est frustrés parce qu'on ne peut pas les dire ouvertement. Tout le monde veut qu'on les dise et quand on veut les dire, il n'y a personne.
J'ai mal posé ma question. Pourquoi aller voir le maire plutôt que votre député? Ou plutôt qu'écrire au président de la République? Pourquoi le maire lui-même, dont vous savez très bien que ce n'est pas lui qui décide du montant des taxes?
Oui, mais le maire a été avec nous un petit peu au départ. Et puis, aujourd'hui, on le sent très éloigné de nous et on avait envie qu'il se rapproche un petit peu plus de nous, qu'il soit à nouveau avec nous, qu'il puisse, quand tous les jours, on vient leur dire d'éteindre nos lumières sur le rond-point, et il a refusé. Par contre, il y a des choses qu'il nous promet et qu'il ne nous donne pas, donc c'était important de le voir.
L'Élysée a laissé fuiter que le président Macron allait parler cette semaine. Qu'attendez-vous de sa prise de parole? Quelles mesures attendez-vous?
C'est une bonne question. Je crois que nous, citoyens, on n'a plus d'espoir. J'espère juste une chose, c'est qu'ils ne nous prennent pas de bas, qu'il ait compris que on avait des revendications, qu'on était sincères et qu'il continue pas à nous voir comme des ignares, comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent.
Qui ne vous prennent pas de haut. Comment vous voyez la suite ? Est-ce qu'il y aura un acte 5 puis un acte 6 ? Est-ce que vous serez sur le rond-point chaque samedi jusqu'à Noël ?
Ah, mais moi, je suis là depuis le premier jour. Et tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, je serai là jusqu'au dernier jour, même Noël.
Merci beaucoup, Marie, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Comment, ma question n'a pas de sens, mais je ne peux pas en poser une autre que celle-ci, elle est tellement polysémique. Comment imaginez-vous la suite, Charles Villeneuve ?
Moi, je crois que Marie devrait avoir, au contraire, de l'espoir. Parce que depuis mercredi, manifestement, il y a quelque chose qui a bougé dans l'esprit du président de la République. Et la meilleure preuve en est que, malgré le petit différend entre le président et le Premier ministre sur la suppression ou le report de la taxe carbone, le Premier ministre, vendredi soir, a reçu une délégation de 7 des Gilets jaunes. Et manifestement, ces 7 Gilets jaunes, en sortant, portaient un espoir. En tout cas, il leur semblait qu'ils avaient été entendus.
Les Gilets jaunes libres,
voilà.
Tels qu'ils se définissent eux-mêmes.
Et je crois qu'il a compris que les Gilets jaunes avaient besoin de mener une vie économiquement décente. Je crois à cet argument-là.
Marianne Darigrand, vous avez vu le terme qu'a utilisé Marie, j'espère qu'il ne nous prendra pas de haut.
Oui.
On a l'impression que le langage est presque aussi important que les faits eux-mêmes.
Bien sûr.
Oui, et dans le langage, en dehors du sens des mots, ce qui est encore plus important, c'est exactement ce que dit Marie, c'est-à-dire le contrat d'interlocution. Vous pouvez être pris de haut, c'est-à-dire que celui qui vous parle, en effet, il vous regarde comme ça en surplomb. Et ça, c'est une erreur que font tous les hommes politiques, pas que Emmanuel Macron et les technos, ils ne pensent pas au contrat. Ils pensent, ils ont une vision un peu christique du langage, tous, c'est-à-dire lève-toi et marche, ça c'est la campagne présidentielle, je vais parler et hop, ou je vais parler, je vais calmer les gens. Non, ce qu'il faut d'abord faire, c'est établir un contrat qui fait que celui qui vous écoute, pour qu'il vous écoute, eh bien vous devez lui donner un rôle intéressant pour lui. Je croyais que Emmanuel Macron le savait, puisqu'il a parlé des thèses, de ces thèses-là d'ailleurs, chez Paul Ricoeur, etc. Donc il faut qu'il passe à la pratique de ça.
Un mot, vous vouliez dire, Émeric Patricot ?
Oui, pour aller un tout petit peu plus loin, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'écoute, mais qu'il faut qu'il y ait de l'amour. Je crois que Macron a tout simplement oublié d'aimer son peuple, d'aimer les gens. Voilà, certains présidents arrivaient à montrer, Chirac arrivait à montrer qu'il aimait le peuple. Macron a oublié pour l'instant. Mais peut-être qu'il va réussir.
Pourtant, c'était un mot de sa campagne, c'était central.
Oui. Le mot amour ?
Oui.
Ah, bah, je l'ai.
Il faudrait qu'il y ait de l'amour. J'aurais jamais pu trouver mieux comme conclusion. Merci beaucoup, Mariette Darigrand, d'avoir été avec nous. Merci, Émeric Patricot. Merci, Charles Villeneuve. À très bientôt. Merci à tous.
À demain,
merci,
Philippe.
Marlène. Nous, on se retrouve demain à 18h. Et maintenant, on va parler de sport avec Lionel Rosso.